On peut sortir une grande bouteille aussi.
On dit qu'on démarre à 22.
Ouais, très bien.
Qu'est-ce que c'est ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits, des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai avec moi une fine équipe, à commencer par Camille.
Bonsoir.
Ça va?
Bah ça va bien, oui, merci.
Juan.
Bonsoir.
Ça va?
Je suis en gueule d'up total, mais ah, ça va.
La grande forme donc. Et donc Karim.
Wesh.
Ah bah la patate, Karim.
La grosse patate.
Et Monica.
Salut.
Ça.
Aussi gueule de bois, pas pour les mêmes raisons, mais on s'en sort.
Je vois qu'on mène tous la vie de patachon, c'est parfait.
Nous sommes de Villefripon, et nous tenons à le préciser, nous le revendiquons.
Patachon.
Fier et vaillant.
Et toi, comment vas-tu?
Ah, voilà la parole gentille.
J'avais oublié.
Tu sais que c'est pour ça que tu es ma préférée. Et bah ça va bien, merci, je suis content de me retrouver avec vous, après une gueule de bois aussi, à croire qu'on est des gens... bizarre, mais pour ce nouvel épisode qui va être très sympathique, alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va commencer avec un sujet sur le Moyen-Âge par Camille.
Ouh. Yeah.
Karim va nous faire un sujet sur le MP3.
Ouais.
Suivi par Juan qui va nous faire un sujet sur la Scientologie, l'église de Scientologie.
Non, c'est pas ça du tout.
Ah merde, j'ai le mauvais...
C'est ça, je vous parlerai de Scientologie. Et toi Elias?
Et bah du coup pour continuer sur ton sujet, je vais parler des religions, des croyances, des cultes un peu bizarres, étranges, souvent drôles. Et voilà, pour voir un peu ce qui se fait et quelles seront les religions de demain.
Génial.
Et bien du coup je vous propose de partir sur le Moyen-Âge.
Allons-y.
On coule du nez quand on a le choléra?
Mais attendez, on est à la table ronde quand même, on fait pas un barbecue?
Vas-y.
C'est comme ça.
Joue moi dessus.
Alors, le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, déjà, j'aimerais te définir. Est-ce que vous savez un petit peu ce que c'est? Comment vous me définiriez le Moyen-Âge avec vos mots à vous?
C'est entre 800 et 1400.
Oh. Non. Avec tes mots à toi.
Lourd.
Non, c'est, absolument pas.
C'est le passé.
C'est le passé, exactement.
C'est avant qu'on sache bien écrire.
Oh non, on savait déjà très bien écrire au Moyen-Âge.
Avant la Renaissance.
Alors c'est juste la période qui est juste avant la Renaissance, exactement.
Avant qu'on commence à réfléchir un petit peu.
Tellement fier.
Non, mais justement, vous allez voir, on va parler de tout ça. Alors le Moyen-Âge, c'est une des trois principales périodes historiques. Donc les trois principales périodes historiques, c'est l'Antiquité, Jules César, tout ça. Le Moyen-Âge et l'époque moderne, donc qui arrive avec la Renaissance. Et ensuite, ça englobe de Louis XIV à nous, tout simplement.
Il n'y a que trois périodes.
Et les dinosaures?
Oui.
Ouais, parce que j'allais dire, le monde n'a pas commencé avec Jésus.
Non, mais l'Antiquité n'a pas commencé avec Jésus, je crois.
Burn.
Voilà.
Justement, l'Antiquité commence avec l'écriture, c'est ça?
Exactement, avec l'apparition de l'écriture. Et avant ça, ce n'est pas de l'histoire, c'est de la préhistoire. Oui, l'écriture cunéiforme, là, les petits clous, là. Bizarre. Alors, c'est une période qui dure 1000 ans, le Moyen-Âge, et qui va du 5e siècle au 15e siècle.
Pas mal.
Ça veut dire de 400 à 1400.
Exactement. En gros, le début, ce qu'on considère comme le début du Moyen-Âge, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident, donc la fin de l'Empire romain, en 476. Et ça va jusqu'à la découverte de l'Amérique en...
1492.
Exactement, par...
Christophe Colomb.
Christophe Colomb.
Amen.
Les bails de découverte, m'amène.
Voilà, c'est à peu près les limites qu'on va donner au Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge lui-même, il est divisé en trois parties. Alors ça, je sais pas si vous le saviez.
Non.
Alors,
la
première partie, elle va du 5e au 10e siècle.
Pardon.
Ça va être dur ce soir, je pense.
Il me blase. Je sais plus quoi en faire. Et donc, la première partie, c'est le Haut Moyen-Âge. Et en fait, ça, c'est la période des invasions barbares. Vous savez, les Burgondes, les Visigoths, tout ça.
Ouais.
Et ça englobe les Mérovingiens, les Carolingiens, la période de Charlemagne, la période où on crée des monastères un petit peu partout.
Je sens qu'il y a ça une blague, mais...
Non, mais les Carolingiens, on dirait une boîte de mecs qui répare des pare-brises, quoi.
Carolin, c'est pas une marque de trucs pour nettoyer des... Ah, faut pas qu'on cite de marque, pardon.
Avec les petits ours.
Ouais, exact.
Ah, la lessive avec les nounours, ok.
Alors ensuite, on a eu le Moyen-Âge central. Le Moyen-Âge central dure environ 150 ans et c'est la période, vous savez, de la féodalité, les seigneurs, les châteaux forts.
Avec les vassaux.
Celui qu'on voit à la télévision, la période des croisades, enfin la période que nous, vraiment, on connaît bien du Moyen-Âge.
Et les chevaliers qui disent ni.
Alors oui, il y a exactement les chevaliers qui disent ni. Voilà.
Je crois qu'ils n'ont pas existé
les
en
chevaliers
vrai.
Chevaliers de Disney.
Ouais, je veux bien une explication.
L'ordre des chevaliers de Disney. Alors, tu sens les mecs qui n'ont jamais vu un Monty Python, du coup.
C'est ça.
On y reviendra, j'imagine.
Alors, on parlera pas des chevaliers qui font Disney, mais.
Non, ce qu'on va faire, c'est que je ferai Disney toutes les 3 minutes. Quoi.
Très bien. Et la troisième période, c'est le Moyen-Âge tardif.
Du coup, c'est pas le bas Moyen-Âge.
Les mecs avaient aucune
aussi
imagination.
Appelé le bas Moyen-Âge. Ah. Voilà. Ah. Et qui débute au 14e siècle. Donc, ça, c'est la période de la guerre de 100 ans contre les Anglais. Et, enfin, de nous contre les Anglais.
Mais du coup, il débute au 14e siècle. Et le Moyen-Âge, ça finit au 14e siècle.
Ça se finit au 15e siècle.
Ah, je suis confuse.
D'où la guerre de 100 ans.
Oui, qui a duré un peu plus de 100 ans, exactement. Mais voilà, grosso modo. Et c'est la période, le Moyen-Âge tardif, c'est la période peut-être la moins sympathique du Moyen-Âge, parce que c'est la période donc, de la guerre de 100 ans, des pestes, des famines, des crises théologiques de l'Église, bref.
On appelle aussi le grand ménage.
Oui, je pense que ça correspond tout à fait. Voilà. Alors, vous parlez du Moyen-Âge, c'était un petit peu compliqué, donc moi j'ai décidé en fait de vous parler de toutes les idées reçues qu'on a à propos du Moyen-Âge, de vous prendre 10 idées reçues qu'on a sur le Moyen-Âge, et de vous raconter la vérité à propos de tout ça. Ces idées reçues, elles sont essentiellement alimentées par l'école, parce que bah oui, les cours d'histoire à l'école sont source d'idées reçues, et de pas mal de films, genre Les Visiteurs ou Sacré Graal, des Monty Python, avec les chevaliers...
Denis.
Exactement.
J'ai l'impression que si tu parles à une génération actuelle, la plupart de leurs références sur le Moyen-Âge, c'est plutôt Kaamelott.
Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à le mentionner, mais tout à fait, il y a aussi Kaamelott.
Qui est du coup le haut Moyen-Âge, parce que tu parlais des invasions burgondes et machin, ça a l'air de coller
à ça. Oui, de toute façon, le roi Arthur, qui a vraiment existé, c'est... Non, c'est le haut Moyen-Âge.
Non, le premier, t'es pas attentif, tu t'es...
Voilà. C'est le roi Arthur, c'est le haut Moyen-Âge. Mm-hmm. Voilà. Donc vous êtes prêts pour les idées reçues ?
Oui.
Donc la première...
Est-ce que tu vas faire comme dans Topito et que tu vas dire « la scène va vous étonner »
Non, parce que...
C'est la 6 qui est étonnante.
Exactement. Alors, idée reçue numéro 1, c'est qu'au Moyen-Âge, on est cracra. C'est vrai qu'on a souvent cette image de l'homme médiéval qui pue sa race, qui a des dents ignobles.
Alors moi, ce que j'avais entendu comme explication, c'était que l'eau qui était porteuse de maladies... Enfin, déjà, il n'y avait pas le courant, donc les douches, c'était pas vraiment le même délire. Il y avait peut-être des bains. Mais le roi, il sentait beaucoup le parfum parce qu'il fallait qu'il sente bon. Mais
est-ce alors... qu'il y avait un roi au Moyen-Âge ?
Oui. Oui.
Moi je suis nul hein.
Oui.
Moi je connais pas.
C'est bien de préciser.
Oui,
on s'en était pas rendu compte.
Oui, moi je suis pas très fort.
Pour vous faire l'idée du Moyen-Âge, juste c'est pour la France, parce que visiblement faut qu'on reprenne les bases.
La France, le truc un peu hexagonal.
Tu peux regarder des Caraïbes en disant
en
ça,
gros,
hein, on n'y est pour rien.
On a le roi de France qui possède son domaine royal, donc le domaine royal au Moyen-Âge, on va résumer ça par l'île de France, tout ce qui est au nord de la Loire, grosso modo.
Avec Chartres.
Et il y a Chartres. Oui, c'est au nord de la Loire.
Si.
Voilà.
On va faire la liste.
Et il y a des seigneurs qui sont propriétaires de leurs terres, donc par exemple la Bourgogne, la Bretagne, etc. Mais ce sont des vassaux du roi, donc c'est-à-dire ils gèrent la politique intérieure de leurs terres. Mais pour tout ce qui va être de faire la guerre contre un autre pays ou quoi, ils dépendent du roi de France.
On peut
en revenir à l'hygiène, peut-être ?
Allez. Hein ?
Oui.
Alors,
ton sujet nous intéresse. Pardon.
J'aimerais vraiment rebondir sur ce que Monica a dit, parce que ton histoire d'eau, qui est porteuse de maladies, ça apparaît après le Moyen-Âge. C'est-à-dire que le Moyen-Âge, c'est une des périodes historiques où on a été le plus propre.
Ah ouais ?
Oh.
Ouais. On est beaucoup plus propre qu'à l'époque moderne, donc qu'à l'époque de la Renaissance ou de Louis XIV à Versailles.
On se frottait du raisin sous les aisselles pour
ça. Qu'est-ce qu'on entend par propre du coup justement ?
Eh ben, on se lave. Je vais vous expliquer tout ça. Déjà, pourquoi est-ce qu'on se lave ?
D'ailleurs, je voulais t'en parler.
Salaud, je sens bon naturellement.
Pourquoi, à ton avis, t'es tout seul sur un coin de la table ? En fait, selon la religion catholique, selon les écrits, il faut se laver un esprit saint dans un corps saint. Et donc, on lave énormément les enfants. On a des traités concernant l'hygiène. Les enfants, on sait qu'on les lave environ 3 fois par jour.
Quoi ?
Ouais.
Mais c'est pas bon, ça.
Non, c'est pas bon, mais à cette époque-là, on n'a pas les couches.
Ah,
donc,
ouais,
voilà.
Bah, se laver après chaque caca, c'est pas forcément une mauvaise chose.
Et du coup, c'est peut-être pas assez, là, 3 fois par jour.
Concernant les adultes, en général, on se lave quotidiennement le visage et les aisselles, et de façon hebdomadaire, on va prendre un bain. Donc, pour les plus riches, on va prendre un bain dans les étuves. Je sais pas si vous vous en rappelez, les étuves, je vous l'ai mentionné, c'était les bains un petit peu coquins.
Ouais.
Voilà. Voilà. Alors, aller aux étuves à Paris, ça coûte le prix d'un gros pain.
La gueule,
on parle donc d'une grosse miche de pain, c'est ça ?
C'est génial.
Mais non, mais je ne peux pas vous le retranscrire en euros parce qu'on peut pas du tout faire de comparaison de valeur de monnaie avec le Moyen-Âge. Donc voilà, ça représente le prix d'un gros pain, donc c'est quand même assez cher.
Bah, et donc les ça dépend de la taille du pain, enfin.
Bah, un gros pain.
Un très gros pain.
Et pour les plus pauvres, on va souvent se baigner plutôt dans les rivières. Voilà, tout simplement.
Qui n'était pas pollué.
Et puis voilà, c'était de l'eau courante, donc on va préférer se laver dans les rivières plutôt que dans les étangs ou dans les lacs, parce qu'on a conscience que l'eau courante, elle est plus propre. Alors, on se baigne, et comme tu le disais tout à l'heure, il y a une période où on va commencer à avoir peur de l'eau. C'est à partir du moment où, enfin, à la fin du Moyen-Âge, quand vont apparaître la peste et les premières MST, la syphilis, que j'avais mentionné aussi dans le premier numéro.
Tu nous en parles souvent. Ouais.
D'ailleurs, ça va mieux. Ça,
ça, bah, ça va, ouais, on fait aller.
Ça gratte encore.
Je sais pas le dire, mais oui, c'est ça. Donc voilà, c'est seulement vraiment après le Moyen-Âge qu'on se méfie de l'eau. En plus, après le Moyen-Âge, il y a des philosophes qui vont commencer à dire que l'eau, ça fait ramollir les os, donc il faut surtout pas se baigner.
Oui, voilà. Voilà.
Au Moyen-Âge, on utilise également du savon, même chez les pauvres. Donc le savon des riches, ça va être le savon de Marseille, qui est inventé au Moyen-Âge, et le savon d'Alep, qui est inventé également au Moyen-Âge. Le savon des pauvres, c'est un mélange de graisse animale, comme le suif de chèvre.
Ah, comme dans Fight Club.
La cendre des héros.
Ça. Et des cendres. Parce que la cendre blanchit et désinfecte.
Ah ouais.
On se lave également les dents, alors se laver les dents, pas comme à notre époque, c'est-à-dire qu'on fait des bains de bouche avec de l'eau, du clou de girofle et du citron pour la laine et pour garder ses dents assez propres.
Ça devait pas être dégueu.
Et on a le souci dégueu. Du coup, comme on se frotte pas les dents et qu'on a plein de dentifrice, d'avoir des dents qui jaunissent assez vite. Donc à cette époque-là, on a une technique au Moyen-Âge, c'est qu'on va se faire noircir les gencives. Plus les gencives seront foncées, on se les fait brunir plus vite. Et bien plus on aura l'impression que les dents sont blanches.
Alors nous,
mais ça nous paraît
pourquoi
dégueulasse.
Pourquoi tu mets du noir autour des yeux, c'est pour la même raison.
Bah, quand on y réfléchit, ouais, c'est une astuce qui est vraiment pas bête.
Et c'est pour ça aussi que les commerciaux, les VRP, mettent des cravates jaunes et marron pour que leurs dents paraissent plus blanches. Vous le saurez maintenant.
Ouais.
On se lave également les cheveux. Donc, se laver les cheveux, les femmes portent les cheveux extrêmement longs à l'époque. Donc, se laver les cheveux, on va pas les laver tout le temps. Du coup, on utilise des shampoings secs qui fonctionnent plutôt bien, de la poudre de fleurs, la poudre d'iris notamment. Et on se les décolore. La mode est au blanc. Donc comment est-ce qu'on se décolore les cheveux ? Eh bien, on se met de l'urine sur les cheveux et on laisse sécher au soleil. Et ça, c'est
une des périodes les plus propres. Donc.
Il fallait y penser.
Et non, et ça blondit les cheveux. Et c'est une technique qui a été utilisée notamment à Venise. Et c'est de là que nous vient la couleur blond vénitien.
Ah, donc quand on vous dit en fait je suis blond vénitien, c'est pas forcément.
Non,
les cheveux, c'est de la pisse, quoi.
Okay. Exactement.
Tu viens de péter l'argument de tous les roux du monde.
C'est une période également où on fait la guerre aux poils. C'est-à-dire que les hommes se rasent de très très près. La barbe apparaît un petit peu plus tard à la Renaissance. La mode de la barbe, elle est lancée par François Ier qui s'est un coup s'est blessé, il s'est tapé une énorme cicatrice sur le menton, il s'est laissé pousser la barbe. Et comme le roi avait une barbe, tout le monde a laissé pousser la barbe.
Putain,
et les femmes, elles s'épilent énormément. À la chaux. Moi, je trouve ça un peu violent.
C'est à la chatte, j'ai eu peur.
Non, non.
Bah, la chatte à la chaux, du coup.
Voilà, la chatte à la chaux. Et les femmes également, et j'en finirai là-dessus pour l'hygiène, elles se rasent le haut du crâne.
Ah, c'est pas beau ça.
Ouais, c'est très très moche.
Comme Jacques.
Alors, on a une autre idée reçue. Au Moyen-Âge, on brûle des sorcières sur des bûchers.
Ouais,
que parce qu'elle flotte.
Voilà, à lire des bouquins d'histoire, on a un peu l'impression que c'était l'occupation du dimanche, aller cramer la sorcière. Alors, c'est pas tout à fait faux. Disons
Red Shop Square.
Belle référence. C'est plutôt vrai, mais à la fin du Moyen-Âge, et c'est surtout vrai à l'époque moderne. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la chasse aux sorcières.
Oui.
Voilà. Eh bien, ça ne s'est pas passé au Moyen-Âge. Ça a peut-être débuté 50 ou 60 ans avant la fin du Moyen-Âge, et ensuite. Ça s'est vraiment produit à l'époque moderne. Le premier procès en sorcellerie qui ouvre à Paris, c'est celui de Jeanne de Brigue, qui était une femme qui avait été accusée d'avoir ensorcelé un homme, et donc elle a été envoyée sur le bûcher, mais ça arrive assez tard au Moyen-Âge, étant donné que ce procès, il a lieu en 1390.
Ouais.
Donc 100 ans avant la fin du Moyen-Âge, même pas 100 ans. Et elle a même pas été condamnée par l'Inquisition. Mmh. Elle a été condamnée par le Parlement de Paris, c'est-à-dire l'équivalent des députés. Donc rien à voir avec la religion, en fait. Hein, c'est vraiment.
Et est-ce que le terme sorcellerie, il existait avant ? Ou ça a été inventé ?
Non, la sorcellerie existe dès l'Antiquité, ce terme-là.
D'accord.
La sorcellerie à l'Antiquité est plutôt bien vue.
Oui, oui.
Voilà. Donc c'est pas forcément un terme péjoratif.
On lisait dans les augures.
Voilà, on utilisait des racines. Oui, aujourd'hui, vous allez vous dire, oui, la carotte est une racine, on en utilise. Mais à cette époque-là, c'est assez bizarre d'utiliser tout ce qui pousse sous la terre.
On n'aurait jamais dit ça.
Jamais.
Bon, donc voilà.
J'ai juste une question.
Dis-moi.
Ça venait d'où ce principe de porter plainte contre quelqu'un pour sorcellerie ?
Bah, porter plainte parce que la sorcellerie va contre Dieu. C'est quelque chose. C'est une sorcière, c'est quelqu'un qui a fait un pacte avec le diable pour faire quelque chose de mal. C'est vraiment comme ça qu'on voit les choses. Donc si tu es une femme et que tu estimes qu'une autre femme a ensorcelé ton mari, oui, tu vas porter plainte.
Ouais, c'était le bon prétexte pour quand quelqu'un te faisait shit. Hey, dis donc. Tu serais pas une sorcière, toi ?
Mais bien sûr, mais parce que pour prouver qu'il y a des sorcières, à la fin du XVe siècle, on va publier un ouvrage qui s'appelle Le Maleus Maleficarum, qui a été écrit par deux moines allemands, et ça veut dire littéralement le marteau contre les sorcières. Et en fait, c'est un livre qui vous explique comment reconnaître une sorcière, comment la capturer, et comment vous en débarrasser. On vous indique que pour reconnaître une sorcière, par exemple, si vous la mettez, donc ça s'est fait à Paris, si vous la mettez dans un sac avec des cailloux et que vous la jetez dans la Seine,
elle flotte.
Si elle remonte pas,
c'est qu'elle est innocente. Ah, voilà. Et bon, certes, elle est morte.
Et du coup, elle est morte.
Mais son âme va au ciel.
C'est pratique, ça.
Tout va bien.
Jésus, t'envoie un truc, bouge
si
pas.
Si la pauvre fille à l'intérieur arrive, va sortir du sac et remonte à la surface, c'est que c'est une sorcière. Donc du coup, on la sort de l'eau, on la sèche, on la crame. Et la
merci.
La deuxième technique, c'est de repérer la marque du diable. C'est-à-dire qu'on part du principe que lorsqu'une sorcière a passé un pacte avec le diable lui a laissé une petite trace. Donc en fait, une tache de naissance, un grain de beauté et des voisins malveillants. Et vous étiez bonne pour le bûcher, quoi. Voilà, en gros, c'est l'idée. Mais
un mélanome malin.
Oh. De l'examen. Oh. Je sais pas. On la garde.
Non, on la coupe par pitié.
Et donc, du coup, voilà, il faut vraiment pas faire de la chasse aux sorcières une généralité. Ça s'est vraiment déroulé à la toute fin du Moyen Âge, et ça a concerné assez peu de cas, étant donné que l'Inquisition qui va s'occuper de la sorcellerie, au final, envoie très très peu de gens au bûcher. Le but de l'Inquisition, c'est pas de buter les gens, c'est de sauver des gens. Donc c'est de torturer les gens, leur faire admettre qu'ils ont tort, et une fois qu'ils disent « oui, pardon, j'ai péché », ils font un peu de prison, et exactement, et on leur pardonne et on les libère. Voilà. Troisième cliché, au Moyen-Âge, la femme n'a aucun pouvoir. Ça, c'est vrai.
Sauf si c'est une sorcière.
Oui, voilà.
Au Moyen-Âge, on se méfie énormément de la femme. Est-ce que vous avez une idée pourquoi on se méfie des femmes en général?
Parce qu'elles sont vénales.
Parce qu'elles empoisonnent.
Ils se doutaient de ce qui se passerait après. Hein, parce que là, nous, on n'en peut plus. On n'arrive plus à les gérer.
Parce qu'elles ont des dents dans le vagin.
C'est... Ah, ah, c'est ignoble. Non, c'est purement religieux. Partez plutôt sur la religion.
Ah, une base de Ève.
Exactement. Elle est
tu m'as fait croquer la pomme.
Elle est à l'origine du double péché originel, étant donné que les deux.
Double péché.
Mais oui, parce que les deux. On fait une double péché. Les deux premières femmes, donc. C'est horrible.
C'est une passion, vas-y.
Donc, les deux premières femmes ont été des salopes, en fait, dans la Bible. La première femme, c'est.
Ève.
Pas du tout, c'est Lilith. Ève est la deuxième femme dans la Bible.
Voilà, la première a été ratée, il en a refait une. Mais j'ai une petite question. Alors, j'avais entendu parler de Lilith, mais elle a été faite à partir de quoi?
Lilith de la nation.
Lilith, en fait. Oh non. Donc Lilith, en fait, elle a été créée en même temps qu'Adam, par Dieu, entièrement par Dieu, comme Adam, d'accord, en fait. Et elle vivait avec Adam, ils se sont mariés, tout va bien, ils ont fait des gosses, etc. Et le problème, c'est que, et ça c'était ce qui était dans la Bible à l'époque, Lilith n'a pu supporter le fait que pendant qu'il baisait, Adam soit sur elle. En gros, elle supportait pas la position du missionnaire, parce que ça voulait dire qu'elle était inférieure à l'homme.
Mais oui, une petite levrette de temps en temps, ça va, on n'est pas des bêtes.
Du coup, elle s'est barrée avec ses enfants. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, la femme, elle a très mauvaise réputation à cause de Ève et Lilith. Mais c'est une idée totalement reçue que de dire que la femme au Moyen-Âge, elle n'a aucun pouvoir. Une femme, elle peut gouverner. On a des cas de régence, par exemple, quand un roi était mineur. Donc on a le cas de Blanche de Castille, qui était la mère d'un roi et qui a régné pendant plus de 20 ans, qui a contrôlé la France et qui s'en est très bien sortie.
À quelle période ?
13e siècle.
Tac au tac.
Oui. On a également des reines qui ont été extrêmement puissantes et qui ont même dominé leur mari, qui pourtant, eux, étaient rois. On a le cas d'Aliénor d'Aquitaine, qui a été reine de France, qui a trouvé que son mari était un petit peu mou du slip. du coup, elle a divorcé de son mari, elle est devenue reine d'Angleterre.
Il y avait déjà le divorce à l'époque ?
Oui, il fallait une autorisation papale. On a également des femmes qui ont été seigneurs sans avoir besoin de se marier, donc qui ont géré leurs terres, qui ont géré les paysans, comme Mao d'Artois, donc qui gérait l'Artois.
Mais du coup, c'était une pratique généralisée ou c'était vraiment l'exception et c'était dans tous les journaux qui n'existaient pas encore ?
Non, ça a pas forcément été des exceptions. Hein.
D'accord.
Disons que voilà, si ça devait se faire, ça se faisait bien sûr que la priorité est donnée aux hommes, mais quand un seigneur n'a qu'une fille, sa fille récupère sa terre. Et en France, en fait, on est même le seul pays où les femmes ne pouvaient pas régner. C'est-à-dire que si vous regardez toutes les cours européennes, ils ont eu des reines qui ont régné sans époux. En Espagne, on a eu Isabelle la Catholique qui a financé les explorations de Christophe Colomb, donc qui est quand même la reine à l'origine de la découverte de l'Amérique. On a eu Jeanne la Folle, donc sa fille. Pchemila en République Tchèque. Enfin, on a eu vraiment plein de femmes très importantes. Idée reçue numéro 4. Au Moyen-Âge, on meurt à 25 ans. Ça c'est vraiment quelque chose qui revient, c'est qu'au Moyen-Âge on meurt super jeune. Là la réponse elle est simple. Si.
Alors, idée reçue numéro 5.
Non mais la réponse c'est non, tout simplement.
Mais oui, la réponse c'est non, parce que lorsqu'on calcule en fait une espérance de vie,
c'est une moyenne.
C'est une moyenne, sauf que au Moyen-Âge, un enfant sur deux n'atteint pas ses 12 ans.
Ouais, là, oui. Bah oui, forcément.
Voilà. Donc forcément, ça baisse énormément. Alors après, les femmes, elles meurent plus jeunes que les hommes parce qu'elles font les grossesses à répétition. Donc elles meurent en enfantant, elles ont les fièvres puerpérales, tout ça, tout ça. Il y a des guerres, donc il y a beaucoup d'hommes qui meurent à la guerre. Il y a la grande peste noire de 1348 qui va faire quand même 25 millions de morts en Europe, soit un peu plus de la moitié de la population en l'espace de 3 ans. Donc,
rien que ça.
Oui, voilà, c'était un petit peu l'hécatombe.
Au moins, ils n'avaient pas de problème d'appart.
Mais au final, au Moyen-Âge, on peut facilement...
Checker privilège, pardon.
On peut facilement atteindre les 50 ans sans trop de soucis.
Ah ouais ?
Ouais, Charlemagne est mort vers 65 ans. Aliénor d'Aquitaine, que je vous mentionnais tout à l'heure, elle est morte à 82 ans. Saint-Louis est mort à 56 ans et de la peste, donc il aurait pu vivre plus vieux. Bertrand du Quesclin, qui était un chevalier, est mort à 60 ans. Maurice de Sully est mort vers 80 ans. La liste est longue, en fait. Donc la cinquième idée reçue, c'est qu'au Moyen-Âge, on croit que la Terre est plate et même qu'on peut tomber au bout de la Terre.
Oui.
C'est faux.
Le disque monde, tout ça.
On sait, depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, que la Terre est une sphère. C'est les Grecs qui l'ont découvert.
Allez.
Ah oui, c'était pas une histoire de réflexion de la lumière.
Ouais, quelqu'un a réfléchi.
Ça, j'en ai aucune
idée. Réflexion de la lumière.
Avec le puits, là.
Un des grands philosophes qui a vu que du coup, il y avait une courbe et que la Terre pouvait pas être plate, sinon la lumière se réfléchirait pas de cette façon.
Alors, c'est pas impossible qu'il l'ait trouvé comme ça. En tout cas, on sait que dès le 5e siècle, les Grecs ont déjà fait des premiers globes terrestres. Donc voilà, on en avait parfaitement conscience. Aucun auteur médiéval n'a remis en cause cette thèse. Et vous savez, on représente souvent les rois avec un globe dans la main. Le sceptre et le globe. C'est bien la preuve qu'on sait que la Terre est ronde.
Mais c'est quoi voilà. Tout ce bordel avec Galilée et...
Alors justement, Galilée, je voulais juste vous mentionner, Galilée, lui, il va être le premier à dire que la Terre tourne sur elle-même et qu'elle tourne autour du Soleil.
C'est l'héliocentrisme.
Voilà, et pourtant,
et
elle tourne.
Alors
Magellan, bah, lui, il a fait le tour du monde, donc il savait que la Terre était un globe. Parce que sinon, il aurait jamais tenté l'aventure. Voilà, sinon, il serait tombé au bout.
C'est pas faux.
Voilà. Et
c'est vachement bien, Magellan qui tombe au bord de la Terre.
Ah oui, je suis à fond dans mon sujet. Et d'ailleurs, vers 1300, on va avoir les premières expéditions de navigateurs qui vont tenter de faire le tour de la Terre, parce qu'ils savent qu'elle est ronde. Et on commence seulement vers 1300, parce que c'est à partir de 1300 qu'on va faire les premières cartes maritimes et qu'on va inventer l'astrolabe. Donc l'astrolabe, c'est... un outil qui permet de calculer la position des étoiles, donc c'est plutôt pas mal pour se repérer en navigation. Voilà.
Moi, je pensais que c'était le grand philosophe Aurel San qui avait découvert que la Terre était ronde, et je vais m'arrêter.
Pour une seule bonne raison, ouais.
Alors, sixième idée reçue, le Moyen-Âge est une période d'obscurantisme et de retour en arrière. Il suffit de prendre le nom, le Moyen-Âge. L'âge moyen, autrement dit l'âge bof-bof.
L'âge bof, ouais.
Voilà.
L'âge pas top.
Alors, en fait, ça, c'est un terme du XVIIe siècle. En fait, au XVIIe siècle, on va juger un petit peu cette période, on le voit comme un retour en arrière, parce que ça a été entre deux âges d'or, le Moyen-Âge. Entre l'Antiquité, qui était vraiment la période de la connaissance et du savoir, et entre la Renaissance. Et à la Renaissance, ce qui va changer, en fait, c'est qu'on ne met plus Dieu au centre de l'univers, mais on place l'homme au centre de l'univers. Ça se voit assez bien, vous savez, sur l'homme de Vitruve de Vinci, le petit personnage qui a les bras et les jambes écartées.
Mais on n'en est pas encore aux Lumières, quand même. Enfin,
Non, on est encore... La fin du Moyen-Âge, on est à 300 ans des Lumières.
Bah ouais,
voilà.
Mais il y a quand même une redécouverte des philosophes de l'Antiquité, c'est ça ?
Absolument, c'est l'humanisme, oui, c'est la Renaissance. Voilà, on fait renaître les philosophes.
Et du coup, j'ai une petite question par rapport au terme Moyen-Âge. J'ai l'impression que du coup, Moyen-Âge, c'est parce qu'il est entre deux âges.
Oui.
Mais à quel moment on l'a nommé comme ça ?
Au XVIIe siècle.
D'accord.
Voilà, on décide d'appeler ça le Moyen-Âge, mais vraiment en référence au fait que c'était un âge moyen. Mais vraiment.
Ah, donc il y avait vraiment un côté péjoratif quand on l'a nommé.
Un côté tout à fait péjoratif, okay. Absolument. Alors qu'au final, au Moyen-Âge, on a inventé plein de choses. On a inventé la charrue, on a inventé l'étrier, ce qui est quand même pratique pour monter sur le cheval.
Est-ce qu'on a inventé la charrue avant les bœufs ?
Ils sont mignons.
Magnifique.
On invente le moulin.
Le trébuchet, la catapulte.
La boussole. Ah, quand même, la boussole, c'est une très belle invention. Les aventuriers de Koh-Lanta pourront vous le dire.
Ils auraient mieux fait d'inventer le GPS.
L'astrolabe, le savon, la brouette, l'eau de vie, les calculs de latitude, et puis les premières dissections de cadavres également. Ça se fait au Moyen-Âge à l'université de Bologne. Donc il se passe énormément de choses en fait au Moyen-Âge. Mais en même temps, 1000 ans.
Ouais, Milan, voilà. C'est long quand même.
Milan, c'est très très long, exactement. Septième idée reçue. Au Moyen-Âge, on meurt de faim et on mange de la bouillie.
Ah.
Bah ouais, c'est vrai que souvent, la bouffe du Moyen-Âge, ça nous fait pas trop envie quand
non.
on y réfléchit.
Non, à part les boissons qui ont l'air sympas, mais.
Mmh. Oui, c'est vrai. Alors, ce serait super hypocrite de ma part de vous dire qu'il n'y a jamais eu de famine au Moyen-Âge. Il y en a eu. Pendant la période de peste, vous vous en doutez, la grande peste de 348. Et,
Il y avait moins d'agriculteurs.
Oui,
oui, parce qu'ils étaient morts. Oui,
voilà, forcément. Feu les agriculteurs. Et également parce qu'en période de guerre, on pratique la politique de la terre brûlée. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
Bien sûr.
Mm-hmm. Bah, on va et on crame.
Pardon.
Au vent. Eh bien, on crame absolument toutes les récoltes. On fait une chevauchée dans le pays ennemi, on crame absolument toutes les récoltes et on repart chez soi. Et comme ça, en fait, on provoque une famine. C'est l'idée.
D'accord, mais du coup c'était ouais, c'était en temps de guerre uniquement.
Ça c'était vraiment en temps de guerre. Oui, ça s'est beaucoup fait dans la guerre de 100 ans. Les Anglais ont fait la politique de la terre brûlée entre Paris et Calais. Ça c'est des régions qui ont énormément morflé.
Et puis ça reste voilà. un peu pareil depuis. Hein.
Oui, bah, c'est pour ça hein, qu'ils sont en galérance encore. Bonjour à eux d'ailleurs. Voilà, on vous embrasse.
Salut. Salut.
Mais sinon, en règle générale, on mange plutôt bien, mais différemment selon ses moyens. Les plus pauvres, effectivement, ils mangent des aliments bouillis. C'est la seule façon de bien les conserver.
Mais les ragoûts et tout.
Exactement. Et la viande, on la bouille. Pourquoi ? Parce que sinon, la viande, la seule technique pour la conserver, c'est de la saler. Et le sel, au Moyen-Âge, ça coûte une fortune, parce qu'on ne sait pas encore extraire le sel de la mer. Donc on utilise des carrières de sel. En France, les seules qu'on avait, c'était les carrières de Franche-Comté. Ouais, voilà.
Cici représente.
Toi.
Oui. Non, mais on a fait que la critiquer durant les différents podcasts cette région.
C'est vrai. Pas forcément à tort, mais il y avait comme.
Voilà, mais vous voyez que au Moyen Âge, la Franche-Comté était importante. Voilà. Et le Moyen Âge, c'est vraiment l'âge d'or de l'agriculture. Vous savez, c'est la période où on va inventer la rotation des cultures, de laisser sa terre en jachère, etc., pour une meilleure productivité. Donc c'est vraiment une période où on a énormément de nourriture par rapport au nombre d'habitants. Donc au Moyen Âge, même le plus pauvre des pauvres, il va avoir des soucis pour se chauffer, pour se loger, mais il n'aura jamais de soucis pour bien manger. Ça, c'est vraiment, il ne faut pas imaginer le paysan tout faible, tout maigre. On mange bien. On a des soucis de cuisson, par contre, parce qu'avoir un feu chez soi, c'est un luxe. Et du coup, bah, tout le monde ne peut pas cuire sa nourriture chez soi. Donc au Moyen-Âge, il y a des food trucks. C'est assez marrant.
Oh, c'est mignon.
C'est vrai.
Big Fernand, c'est vieux comme le monde. Hein.
Surtout dans les villes, en fait, il y a des food trucks.
Comme devant le MK2.
C'est ça. Et j'ai une petite anecdote qui va vous mettre en appétit. Il y a un bourreau parisien qui nous raconte qu'au XIVe siècle, il était en train de faire une exécution. Donc en fait, il exécutait un faux monnayeur. Donc les faux monnayeurs au Moyen-Âge, on les ébouillantait. Et c'était un hiver très très rude, et donc les Parisiens sont venus faire cuire leur viande en même temps dans le.
Oh non!
Oh non.
Voilà.
Voilà. C'est la naissance.
Faut pas gâcher!
Du bouillon!
Ah bah c'est, voilà. Je reparlerai après d'ailleurs, mais vas-y.
Donc voilà pour ce qui est de la nourriture. Alors, numéro 8. Au Moyen-Âge, tout est gris.
On n'avait pas.
On nous présente une période vachement grise avec des gens qui portent des vêtements marrons.
Ouais, ça coûtait pas cher, justement, de teindre ces vêtements, etc. Ou c'était pas grâce au voyage Christophe Colomb et compagnie qu'on a trouvé des teintures différentes.
Non, on avait des teintures qui étaient accessibles facilement. Après, bien sûr, qu'il y a des couleurs qu'on obtenait que de loin. Mais il y avait des couleurs qu'on pouvait obtenir assez facilement. Bah, le rouge, même pas. Dans le sud de la France, on l'a parce qu'il y a un coquillage méditerranéen qui nous permet d'avoir. Je sais plus comment il s'appelle, mais
il y a
c'est
le
un
lac
coquillage.
Du
qu'on casse et en fait on adore la couleur au Moyen-Âge, mais vraiment on adore ça. Donc il faut vous imaginer même que c'était très 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 coloré. Ouais. On peint les murs à l'intérieur des maisons, des châteaux, des églises, on peint les façades. Donc si vous allez par exemple devant Notre-Dame de Paris, je prends cet exemple là parce que c'est le plus marquant, toute la façade était peinte et donc alors, les personnages, les statues, tout, et c'était peint notamment en bleu, en rouge et en doré, parce que c'était les trois pigments de couleur qui coûtaient les plus cher, et c'était pour montrer que l'église, elle a du flouze. Si vous voulez voir également,
il y en a plus.
Si vous voulez voir également un exemple d'intérieur peint du Moyen-Âge, pour ceux qui sont sur Paris ou qui passent par Paris, il y a la Sainte-Chapelle qui a conservé tout son intérieur de peinture. Donc le plafond est en bleu avec des milliers de petites étoiles, et tous les murs sont rouges peints avec de la végétation. C'est vraiment super coloré, quoi.
Et du coup, c'est où exactement la Sainte-Chapelle ?
La Sainte-Chapelle, c'est juste à côté de Notre-Dame, sur l'île de la Cité. Il faut y rentrer comme si on entrait. Enfin, il faut passer par l'entrée du Palais de Justice.
Ok.
Voilà, c'est dans le Palais de Justice de Paris. Et on a également des vêtements très colorés. Par exemple, on met beaucoup de jaune, de orange, de vert. On adore ça.
Bon, c'est bon, on l'a.
Idée reçue numéro 9. Avant de partir en croisade, le chevalier met une ceinture de chasteté à sa femme.
Ouais.
Oui, hein,
il l'avait pas lui-même.
La ceinture de chasteté, elle a la peau assez dure, mais en fait elle n'a jamais existé au Moyen-Âge, on est carrément sûr aujourd'hui. Toutes les ceintures de chasteté qu'on a, elles datent du 18e siècle, elles n'ont jamais été utilisées. En fait, ce sont des fausses.
18e ? Ouais. C'est super tard.
Mais oui, mais elles n'ont même jamais été utilisées. Le 18e, c'est la période des Lumières. C'est la période de la Révolution française, et c'est la période en fait où on critique le plus le Moyen-Âge et la période féodale pour montrer à quel point les nobles étaient des gens fous et vicieux. Et donc on dit, oh, vous voyez, ils mettaient des ceintures de chasteté à leurs femmes. C'est la période où on invente le droit de cuissage aussi. Où on dit, ouais, il paraît que les seigneurs... mais c'est faux, ça n'a jamais
existé. Le droit de cuissage n'a jamais existé.
Non, il n'a pas existé. Voilà, et j'en arrive maintenant à l'idée reçue numéro 10, celle qui m'énerve le plus, et qui est une des plus courantes. On jette de l'huile bouillante sur l'ennemi du haut des remparts grâce au mâchicoulis.
Eh ben non, parce que l'huile, ça coûtait super cher.
Exactement. Non, non, non. Non,
tu jettes pas du confit de canard sur les ennemis.
Mais c'est tout à fait ça. Parce que je suis d'accord, oui, il y a des putains de mâchicoulis, oui, c'est défensif, oui, on jette des choses, mais merde, pas de l'huile bouillante. Clairement pas.
Mais quoi,
pour continuer
des
sur
déjections.
Alors, on jette des cailloux, du sable, du soufre, des débris d'armes, et si, si par exemple vous êtes en siège et que vous êtes sur une cité ou dans un château qui est entouré par des douves, l'ennemi qui vous assiège, il utilise l'eau des douves pour boire. Eh bien, vous jetez un cadavre. Et on ne jette pas d'eau non plus. Pas d'eau bouillante non plus, parce qu'en cas de siège, on ne va pas s'éclater à gâcher le peu d'eau potable qu'on a. Donc ça, je ne sais pas d'où vient cette idée. Et je vous fais enfin une idée reçue bonus. Les princesses chevauchent des licornes au Moyen-Âge.
Alors, oui, bah moi j'ai vu ça à l'école, mais on me l'a rabâché.
Les fameuses.
Alors les princesses du Moyen-Âge, elles chevauchent ce qu'elles veulent, mais certainement pas des licornes. Parce que la licorne, oui, c'est l'animal qui est le plus mentionné dans les écrits du Moyen-Âge.
La licorne?
Mais oui, mais au Moyen-Âge, on est convaincu qu'elle existe.
Attends, non mais là tu mets le doute. On est d'accord que les licornes, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas, mais aujourd'hui...
Non mais va aux autres Vincennes. Hein.
Aujourd'hui, on a compris enfin ce qu'était la licorne. En fait, la licorne...
C'est une vache qui a une corne en moins.
Non, en fait, c'est parce qu'au Moyen-Âge, on retrouvait des cornes de licorne. Et on s'est dit, mais c'est dingue. Et en fait, ce sont des dents de narval qu'on a retrouvées. Vous voyez ce que c'est, le narval?
Oui, bien sûr.
C'est, voilà, c'est le dauphin avec ses cornes.
Attends, mais on les retrouvait pas dans des champs?
Non, oui, ça se retrouvait sur les plages.
Voilà. Et le mec se dit, il y a une licorne qui passait par la plage, elle a perdu sa licorne.
Mais la licorne, c'est un animal celtique qui a été inventé en Bretagne. Si vous voulez en voir une en vrai, c'est pas très compliqué. Vous allez au musée du Moyen-Âge à Paris. À Cluny, donc juste à côté de Saint-Michel, et vous avez une énorme dent de narval qui vous permet de vous faire une idée de ce qu'était une corne de licorne, tout simplement.
Une corne de narval, je pense.
Non, c'est une dent.
C'est une dent.
Une dent ?
Oui, c'est une dent. Et alors, si le Moyen-Âge, au final, je vois que vous avez plein de questions, ça vous botte, il y a une super expo qui se finit dans pas longtemps, qui s'appelle Quoi de neuf au Moyen-Âge, qui est à la Cité des Sciences à Paris, qui dure jusqu'au 6 août 2017.
Ah, décidément, Paris.
Et merde, désolé, j'habite pas dans le Larzac. Voilà.
Pas encore.
Et tu laisses le Larzac tranquille.
Pas encore. Et c'est une exposition, justement, qui parle de. Qui contredit toutes les idées reçues qu'on a sur le Moyen-Âge grâce à la science et à l'archéologie.
Est-ce qu'on n'avait pas fait ça?
Oui, tu parlais des chevaliers de Nîmes dans ton intro, et on en a pas du tout parlé. Parce que t'as dit que t'en parlerais.
Non, j'ai juste mentionné Sacré Graal des Monty Python, il faut que tu le vois, ce sont les chevaliers qui font.
Effectivement, bon, je le regarderai alors.
Voilà.
Ok, et bah du coup, on va passer. Bah du coup, bah, déjà, super sujet, Camille.
Tout à fait.
Ouais, super génial. Intéressant.
Bravo!
Merci beaucoup!
Et donc, du coup, Karim fait le malin, on va passer à ton sujet.
Oui, mon sujet. Faisons-le.
Ah, l'enculé, il s'est foutu de notre gueule avec son album de merde.
Moi je vais vous parler du MP3. Première question, alors j'aimerais bien que ceux qui savent vraiment ce que c'est ne répondent pas, comme ça c'est un petit peu plus rigolo. Ceux qui ne savent pas, le MP3,
c'est un scooter.
Ce qu'est le MP3 à votre avis, qu'est-ce que c'est?
Du coup, si on n'est pas sûr de savoir, je sais pas quoi répondre.
C'est une boîte qui fait de la musique.
C'est pas une boîte qui fait de la musique.
Ça peut, un lecteur MP3 c'est une boîte qui fait de la musique.
Un lecteur MP3.
C'est un format de compression.
C'est un format de compression.
Oui, mais en fait c'était piège parce que t'as dit ceux qui savent le dites pas, du coup on est comme des cons. Oui.
On était pas sûr.
Un format de compression audio.
Oui.
Dont le but est de réduire la taille d'un fichier audio.
Oui. Jusque-là, tout va bien.
Est-ce que vous avez une idée d'où vient le concept principal de réduire la taille d'un fichier audio? Comme ça, on réfléchit.
Pour l'adapter à un support de diffusion.
À quelle époque? Qui a fait ça? Quand? Comment?
Le MP3, bah, ça vient de...
Non. Le concept de réduire la taille d'un fichier audio.
Ah, de réduire la taille?
Ouais.
À partir du CD, je pense, non?
Bien avant? Ouais.
Audio?
Parce qu'à l'époque de la cassette, il n'y avait pas de poids.
Bien avant.
Ah, moi, je dirais pendant la guerre. Pendant
Marcel
une
Pagnol.
Guerre, quelle qu'elle soit, mais pour du coup MP3. Faciliter les transmissions.
Faciliter les transmissions, ouais. Mais pas coup... pendant la guerre.
Ah, pendant entre les guerres, alors.
1907.
Ouais, bah c'est large, c'est facile.
J'essaye.
1907, Il y a
c'est entre deux guerres.
Une compagnie téléphonique. Mais non.
La première, c'est 14-18, 1907.
Mais si, il y en a eu avant 1850.
Il y a eu des guerres avant,
non, mais oui, mais l'entre deux guerres, c'est entre les deux guerres. Non,
et tu parles à une historienne, Ilias, hein, s'il te plaît.
1850, il y a une guerre.
Donc en 1907, il y a une compagnie téléphonique hyper connue qui s'appelle AT&T aux US. Mm-hmm. Elle a voulu augmenter la capacité de son réseau téléphonique. Et donc, elle a financé la recherche en psychoacoustique. La psychoacoustique est une branche de la psychophysique qui étudie les rapports entre les perceptions auditives de l'être humain et les sons qui parviennent à ses oreilles.
Okay. très belle.
C'est quoi cela, ce que t'entends ?
Qu'est-ce qu'il y a dans tes oreilles ?
Donc, ils ont fait ces études dans le but d'augmenter la capacité du réseau téléphonique. Et ils sont rapidement rendus compte que le téléphone diffusait des fréquences qui n'étaient pas entendues par l'être humain. On va prendre l'exemple du renard ou du chien. Il entend des fréquences
très hautes
que l'être humain n'entend pas.
Ouais, du coup, on a réduit le spectre, en fait, pour...
Exactement, on a réduit le spectre.
On a enlevé d'ailleurs une grosse partie des fréquences basses pour le téléphone.
Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rendu le téléphone moins précis et qu'ils ont réussi à augmenter de 4 fois la capacité de leur réseau téléphonique, et ça leur a permis d'avoir le monopole du téléphone aux États-Unis jusque dans les années 90.
Mm-hmm. Bon, ils l'ont toujours, non, AT&T ? Ah non, c'est peut-être Sprint maintenant. Mais...
Je ne sais pas, c'était écrit 90.
Sprint, c'est l'équivalent de Free aux États-Unis, peut-être qu'ils ont pris la tête maintenant. Mais...
Grosse coupure, ellipse, on reprend. On est en 1987, en Allemagne, et il y a la Digital Audio Broadcasting, le DAB, qui a été fondé par la Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Je vais requérir une traduction.
Eh ben, le centre allemand pour l'air et tout ce qu'il y a avec, en gros.
Ah.
Mais en gros, c'est là.
C'est concis l'allemand.
C'est la radio, quoi.
Ok, ouais, c'est.
Tu pouvais commencer par là.
Et les mecs, ils ont fait de la recherche qui se basait sur les études de psychoacoustique qui avaient été faites par AT&T en 1907. Et ils se sont dit, bah, tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas de trouver un moyen pour rendre une musique avec la même qualité, mais avec une taille réduite ?
À quel moment le concept de taille s'est devenu important ? Parce que j'essaie de réfléchir, quand on faisait par exemple du vinyle, c'était la durée, il n'y avait pas de notion de poids du fichier, en cassette non plus, c'était de la durée de bande. Pour moi, il n'y a qu'à partir du CD où on a commencé à devoir compresser quelque chose.
Mais vu que c'était en 1987, je pense que ça arrive au moment au où CD. Les CD est arrivé, ils se sont dit comment est-ce qu'on peut améliorer ça ?
Ouais, puis même avec les bandes, il y a eu des bandes plus tard côté informatique et on peut stocker énormément de choses sur les bandes. Mais c'est la façon de lire qui l'a changé.
Il y a des études qui ont été faites par le DAB. Et ensuite, il y a la Fraunhofer Gesellschaft qui s'est basée sur ces travaux et qui a créé le format de compression MP3. Est-ce qu'on peut remettre la petite musique qu'on avait utilisée lors du jingle ?
On peut.
C'est Tom's Dinner de Suzanne Vega. Merci. Et donc, cette musique, vu qu'elle est assez simple... C'est elle qui a été utilisée. Hein, vas-y, remets-la, perturbe-moi. C'est elle qui a été utilisée pour tester le format MP3. Donc le but, c'était de tweaker un petit peu la façon dont on retire les fréquences. On faisait écouter cette musique-là à des volontaires. Et le but, c'était qu'ils ne sentent pas la différence entre l'original et le format compressé.
Ok.
Pourquoi est-ce que on compresserait une musique ? Quel est l'intérêt ?
Pour la rentrer sur un support.
Pour la rentrer.
Je l'aurai celle-là.
Alors en fait, à la base, une musique qui va durer 3 minutes 50, 4 minutes, format radio classique, sur un CD, ça va peser à peu près 35 mégas. En MP3, ça
c'était
va
quoi,
peser à peu
quoi
près
la taille d'un CD, je me souviens
3,5 mégas. 700.
Ouais. 700 mégas. Ouais.
En fait, la durée d'un CD audio, c'était fait pour contenir, je crois, une des symphonies de Beethoven en entier. On entend des petites gouttes de vin. Donc on passe de 35 mégas à 3,5 mégas, donc un rapport de compression de 10. À l'époque, on est dans les années 90, fin 90, on avait tous des connexions 56K. Si tu veux télécharger une musique qui fait 3,5 mégas, ça te prend environ 20 minutes. Figure-toi que pour télécharger une musique au format non compressé, ça mettait 3h30. Donc, gain de temps phénoménal. Et du coup, cette compression de la musique grâce à l'algorithme, putain, c'est difficile à dire après du vin, de la Fraunhofer Gesellschaft.
Le mec, c'est difficile à dire, algorithme. Fraunhofer Gesellschaft.
ça a lancé des logiciels de peer-to-peer, genre Napster en 2000. Mm-hmm. Je sais pas si vous avez eu la chance de télécharger sur Napster.
Non,
je l'ai
non.
eu. Je suis dans le game, les gars.
Ah. Ah. Et Napster s'est relancé il y a quelques années d'ailleurs.
Ouais, ils ont fait une offre payante bidon.
Mais toi, t'étais un mec qui avait Winamp.
Tout le monde s'en fout, bien sûr.
Ah,
it really kicks the llama's ass. Il y avait un MP3 fourni avec Winamp.
Absolument,
c'était
je m'en rappelle.
Magnifique. Et les maisons de disques, elles étaient pas contentes.
Forcément.
Ça a donné la naissance du dématérialisé.
Mm-hmm.
Apple, ils ont été malins. En 2001, ils ont sorti l'iPod
mm-hmm.
pour profiter de tous les MP3. Ils ont vu que ça marchait bien. 2003,
iTunes. Store.
Boom.
Et bim.
Et un exemple bête que je vais vous donner, c'est... est-ce que vous avez joué à GTA 3, GTA Vice City?
Ouais.
Est-ce que vous vous rappelez de la musique de ouais. GTA? Alors, c'est... Dans GTA.
Tu parles de menu ou tu parles de...
Je parle pas du menu,
game,
non.
Parce que c'était une radio, la radio de la voiture,
voilà,
finalement.
Il y avait énormément de pistes audio dans ouais. GTA. Et ça, c'était grâce au format MP3, parce qu'ils avaient réussi à compresser la musique et à la mettre de, sur le... Il y avait
sur le DVD du...
Un seul CD, je crois, ouais, GTA 3. Ouais,
c'était des DVD ou des CD?
Je crois que c'était des CD.
Des
hein.
CD, ouais, possible.
Et donc, du coup, ça a permis énormément de liberté... On en est maintenant à Spotify, Netflix, la compression a vraiment énormément changé
mmh.
la manière qu'on a de consommer la musique. Par exemple, c'est tellement rentré dans les mœurs grâce à cet algorithme que la semaine prochaine, il se passe à Paris encore, désolé, le Download Festival. Franchement, pour moi, le Download Festival, c'est clairement associé au Digital Audio Broadcasting Deutsches Zentrum für Luft- und Baumfahrt Fraunhofer Gesellschaft.
Et pourtant, au Download, ça doit pas te daber des masses. Hein.
Je pense que non, en effet.
Ouais. Et du coup, bah tiens, en parlant de MP3, déjà, sujet très sympathique, très intéressant. En parlant de MP3, il y a MP3 at Paris qui va avoir lieu le 10 juin, il me semble. C'est exactement ça, à partir du 10 juin, 10-11 juin. À Paris, ça va être un rassemblement de podcasteurs et de producteurs de contenu web. Mais non, il va y avoir des gens intéressants. En fait, c'est tout l'héritage de à la fois bah, des podcasts qu'on peut connaître et voir. Il y aura bah, tiens, d'ailleurs deux HDP qu'on écoute et qu'on apprécie beaucoup. Et il y a aussi bah, tous les héritiers de la production audio web, tout ce qui va découler de Nolbuck, etc. Donc il y a des web séries, etc.
Il y a Nolbuck au truc, attends, moi j'y vais.
Ah non, alors il n'y a pas Nolbuck, mais il y a des gens qui font encore de la fiction audio. Et ça, justement, ça, y a un regain, il y a un essor qui se...
Comment oui. s'appelle déjà Nolbuck et tout, là?
Pen of Chaos.
Voilà.
Pen of Chaos.
Ils ne font plus rien, eux, d'ailleurs, malheureusement, non?
Je pense pas. Par contre, il y a Antoine Daniel qui est en train de préparer une fiction audio qui va sûrement faire un carton, ouais.
Bah ok, bah, c'était super. Du coup, on va passer maintenant au magnifique sujet de Juan sur la scientologie.
On va voir.
As-tu entendu parler de la scientologie?
Tu ne peux pas te moquer de la scientologie!
C'est moi, Tom Cruise!
On va te coller un poisson au cul et tu vas le regretter!
C'est South Park.
La scientologie, oui, c'était South Park en effet. Je vais vous parler de la scientologie, c'est. Bah, tout le monde connaît la scientologie, j'imagine.
Tom Cruise. Oui.
Ouais. C'est une matière que j'avais au lycée Philippe Lebon, 4ème B.
On en parlera en privé. Donc, la scientologie, c'est une église. Hein. C'est une religion qui a été fondée dans New Jersey au début des années 50 par un auteur de science-fiction qui s'appelait. Alors, L.R. Hubbard. On va l'appeler Hubbard, mais c'était Lafayette Ronald.
Les années 50, c'est si jeune que ça, la scientologie?
C'est si jeune que ça,
quand
la scientologie.
Quand on voit l'envergure que ça a aujourd'hui, c'est quand même des milliers d'adeptes.
Et on va en parler de l'envergure que ça, c'est parce que stratégiquement, c'est plutôt malin.
C'est énorme.
Donc le nom scientologie, ça vient du latin scio et du grec logos. Scio, le savoir, logos, l'étude.
L'étude du savoir.
Bravo! Donc ça regroupe beaucoup de trucs, la scientologie. Mais en gros, on est tous des êtres de lumière immortels. On a oublié notre vraie nature après avoir été empoisonné par des âmes d'extraterrestres. Donc sur le papier, la scientologie, c'est vachement sympa. C'est une philosophie spirituelle. Le but, c'est que tu puisses t'épanouir, mieux vivre au quotidien, oublier un petit peu tous tes problèmes. Mais
ce qui est plutôt cool à la base comme concept.
Oui, ce qui est plutôt cool, mais ouais. Après, ça concerne à peu près toutes les religions et toutes les sectes, cette définition-là.
Est-ce qu'on va avoir le débat religion ou secte?
Juste après, j'en parlerai.
Exactement.
Oh, teasing.
Donc on va évacuer un petit peu la partie qui intéresse tout le monde, à savoir c'est quoi les fondements de la scientologie, parce que c'est là-dessus en fait que la scientologie est particulièrement attaquée et ridiculisée, ce qui est pas plus mal. Donc, il y a 75 millions d'années, un extraterrestre du nom de Xenu, qui dirigeait une confédération galactique,
On est toujours sur la Bible là ou pas?
Tu te fous de nous là?
Pas du
tout.
C'est
la vraie version là?
C'est la vraie version.
Il y a une Bible de la scientologie, un truc, un bouquin.
Ah bien sûr, on va en parler. Donc cet extraterrestre s'est trouvé face à un problème de surpopulation. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème de surpopulation? On prend ses concitoyens en trop, on les envoie sur Terre, on les fait jeter dans des volcans, on balance des bombes nucléaires dessus avec des vaisseaux spatiaux qui ressemblent à des bombardiers de l'époque. Sinon c'est pas drôle. Mais le problème c'est que leurs âmes, une fois qu'ils sont morts, elles veulent partir, mais elles se retrouvent enfermées par l'atmosphère terrestre.
Oh shit, pas de chance.
Ah, alors on parle de ça, c'était bien les dinosaures et tout ça.
Avant le Moyen Âge.
Il n'y avait pas encore de trou dans la couche d'ozone, ils ne pouvaient pas passer.
Exactement, ils étaient grillés. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces âmes d'extraterrestres?
Elles sont revenues nous hanter.
Et elles sont rentrées dans les corps des êtres vivants, jusqu'à arriver à nous, les humains, qui pourtant à la base étions des créations pures.
Putain.
Et on s'est fait empoisonner par des âmes d'extraterrestres.
Donc si j'ai bien compris, ça s'est passé il y a 75 millions d'années.
Ça s'est passé il y a 75 millions d'années.
Sachant que l'être humain n'existait pas à cette époque, ça va, tout va bien quoi.
C'était ouais, des ouais, âmes ouais. De dinosaures.
Mais puis il y avait pas de bombardier non plus à l'époque, si tu veux.
Ah bon?
Il paraît.
Tu crois?
Ouais, il paraît. Le but de la scientologie, c'est qu'on puisse se débarrasser de ces âmes d'extraterrestres. Pourquoi? Parce que elles nous empoisonnent l'esprit avec des mauvaises pensées, des mauvaises visions qu'on appelle des engrammes. Alors faut savoir que l'engramme c'est quelque chose qui existe en vrai, hein, c'est pas lié à la mémoire, mais là c'est réutilisé parce que la scientologie réutilise beaucoup de termes scientifiques pour en faire un petit peu ce qu'elle veut. Ça fait partie de ses petites qualités, encore une qualité de secte très connue. Ouais. À votre avis, il y a combien d'adeptes de la scientologie? On va démarrer en France.
En France.
Parce que pour beaucoup de gens, la scientologie ça n'existe qu'aux États-Unis, c'est pas
milliers,
le cas du tout.
15 000.
Alors c'est vraiment à la louche parce que c'est très secret. Une secte, mais on est jusqu'à à peu près 20 000 adeptes en France. Dans le monde, on est dans les 12 millions,
non.
À peu près.
Bon, en même temps, il y a 40% de personnes qui ont voté pour Marine Le Pen, il peut y avoir 15 000 scientologues. Hein.
Absolument. faut savoir que ces âmes d'extraterrestres s'appellent des thétans. Thétan. Oui, ça vous parle peut-être.
Chétan,
oui, ça y ressemble aussi, c'est peut-être lié, je ne saurais pas te dire, demande à l'allumé qui a écrit ça. Donc, pour vous expliquer comment fonctionne concrètement l'église de Scientologie, plutôt que vous faire un gros pâté, on va prendre une personne ici, on va prendre Karim.
Ouais, salut.
Bonjour Karim.
Ouais, je suis chaud.
Tu as des problèmes dans ta vie?
Ouais, j'ai des gros problèmes.
Tu as testé plusieurs solutions.
Mon travail ne fonctionne pas.
Tu es allé voir un psy.
Ma copine, ouais. C'est la merde.
Tu as pris tes antidépresseurs, t'es allé voir un psy, ça n'a pas marché. Du coup, si tu allais faire un tour à l'église de Scientologie.
Mais pourquoi j'irais là-bas?
Parce que ça va pas bien.
Généralement, ça va être un proche qui t'a dit que ça peut t'aider, que lui-même, ça l'a aidé énormément.
Ah, ça veut dire que ce serait la solution à mes problèmes?
Comme pour les salles de sport.
Une personne te la conseillerait. Souvent, ça se passe en bouche à oreille, mm-hmm. Parce que de l'extérieur, tu dirais pas « je vais aller voir l'église de Scientologie ».
Ok.
Tu vois, tu te dis « ouais, c'est une bande d'allumés ». Généralement, ça va plutôt se passer avec un proche ou une personne que tu connais qui va te le conseiller.
C'est un peu comme « pardon maman », en fait. Ouais, j'ai écouté, ça m'a fait vachement de bien, tu devrais écouter aussi.
Ouais, personne m'a jamais dit ça. Enfin, toujours est-il que
donc
si
j'arrive.
Tu arrives, tu vas aller dans un centre d'information.
Je suis désespéré, de toute façon je suis au bout, je me dis allez, voilà. Vas-y, je passe.
Alors la plupart des gens vont pas y aller par pur désespoir, mais par curiosité finalement. Tiens, qu'est-ce que c'est? Allons voir. Tu vas aller dans un centre d'information, qu'est-ce qui va se passer dans ce centre d'information? Tu t'attends à quoi?
Une brochure.
Par exemple, oui. Tu vois ça comment, un centre d'information de Scientologie, si tu devais imaginer?
Un cabinet de dentiste.
Ah, on n'est pas loin. On va avoir une espèce une entrée avec des chaises, un petit buffet, de la nourriture, etc. Tu vas être plutôt bien accueilli par des gens très souriants, très propres sur eux, mais vraiment très très souriants, trop souriants peut-être.
Moi j'imagine quelqu'un qui a la voix très douce et très calme.
C'est exactement ça.
Bonjour, bienvenue. Quand j'y vais, je dois être coopté par mon pote.
Alors non, tout le monde est bienvenu à l'église de Scientologie. Hein.
Ah, c'est bon, ça va.
Ouais, donc tu vas avoir en effet des prospectus, que tu peux consulter toi-même, mais c'est un peu trop passif un prospectus. Le but, c'est pas que tu lises le truc et que tu te fasses ton avis dessus. On va plutôt te guider, te prendre par la main, te dire viens Karim, si tu veux, on va prendre rendez-vous avec quelqu'un pour que vous discutiez de la scientologie. Bon, il n'est disponible que dans une paire d'heures. En attendant, pour que ce soit plus facile à appréhender, on va aller ensemble dans une petite salle de projection. On va regarder un ou deux petits films qui vont nous expliquer 2-3 choses sur la scientologie. Par exemple, que les scientologues sont des gens très très bien. Par exemple, il y a eu un tsunami, ils sont allés aider les gens pour les débarrasser de leurs engrammes, leur permettre de mieux vivre la situation.
Mais plutôt cool du coup.
Voilà, on va te parler de Katrina, on va te parler du 11 septembre par exemple, où énormément de bénévoles pour aider à la catastrophe du 11 septembre étaient des scientologues.
Comme dirait TTC, une bande de mecs sympas.
Exactement, on va te les présenter comme une bande de mecs sympas. On va aussi t'expliquer, mais gentiment, on y va gentil, on va pas commencer à te parler de Xenu, l'extraterrestre et machin. Non, non, ça concerne.
D'un coup, ça fait dur.
Ça, c'est plus haut, ça. Là, on va plutôt te parler du fait que Hubbard, donc Elrond Hubbard, c'était quelqu'un de très éclairé, de très, non, un humaniste finalement, une personne adorable qui a fait beaucoup de bien à ses prochains et qui a écrit des livres, énormément de livres, pour essayer de résoudre les problèmes psychologiques des autres, notamment une méthode qui s'appelle la dianétique. La dianétique, c'est la méthode qu'utilisent les scientologues pour que tu te sentes mieux, pour te purifier. Donc, généralement, tu vas repartir avec ce bouquin. Alors, on va y venir, je vais te parler des tests aussi, mais en gros, on va te vendre le bouquin qui s'appelle « La dianétique ».
Ok.
D'accord ? Qui a été écrit par Ron Hubbard. Ce mec a écrit des tonnes et des tonnes de bouquins puisqu'il a créé une religion, ça se fait pas avec trois pages. Voilà, exactement. Et donc, on va te montrer ses films. Ensuite, on va dire si on allait discuter un petit peu, toi et moi. Donc, une fois que tu sors de cette salle d'accueil, on va venir te chercher, tu vas suivre une très gentille personne, très souriante, très, très avenante, et on va t'amener passer quelques tests. Donc les tests, ça consiste en plusieurs choses. Déjà, on va utiliser de la technologie, parce que ça renforce un petit peu la crédibilité du truc. Mm-hmm. Tu parlais du fait que ça datait des années 50. En fait, la technologie, ça permet aussi de prouver ce qui est vrai ou pas. C'est un peu le petit bonus pour que la pilule passe mieux, on va dire.
Et, excuse-moi, mais comment ça, de prouver ce qui est vrai ou pas?
Ouais, parce que c'est un peu facile.
Ça donne une échelle qui paraît...
Ils se te proclament détenteur de la vérité, en fait.
Ouais. Oui, absolument. Mais surtout qu'une personne crédule, si tu lui mets une technologie devant qui prouve que ta religion de science-fiction marche, ça a plus de chances de marcher, tout simplement. Donc, Karim, on va te mettre devant un électromètre. Un électromètre, c'est un appareil avec une petite aiguille et deux cylindres que tu vas attraper avec tes mains. Je suis content que tu le fasses.
D'accord.
Que tu vas attraper avec tes mains et je vais te poser des questions qui vont faire réagir cette aiguille.
Une sorte de détecteur de mensonges.
Une sorte de détecteur de mensonges. Le but, c'est de voir où sont tes engrammes, c'est-à-dire quels sont tes souvenirs traumatisants. Ça, c'est basé un petit peu sur de la psychologie de base, quand on fait revivre un traumatisme à une personne qui a subi un trauma.
Tu te le remémores.
Voilà. Et nous, on va faire ça de manière un petit peu violente, donc tu vas tenir ça. Okay. Je vais te poser des questions, on va voir que l'aiguille réagit tout le temps. Ça va me servir à quoi? Ça va me servir à te dire, tu vois, tu as plein d'engrammes. Ton âme est souillée, de ouf.
On va te poser quel type de questions, quel type de test?
Alors, typiquement, je vais te demander, soit je vais te demander de revivre un souvenir particulier, soit je vais aller chercher dans des trucs faciles. Par exemple, je vais te dire, est-ce qu'un de vos proches est mort récemment? Est-ce que quelqu'un vous parle mal au travail? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous juge constamment? Et je vais t'aider à aller chercher ces mauvais souvenirs.
Vu que tu t'adresses à des mecs qui sont déjà dans la détresse, forcément, il y a un des interrupteurs qui va marcher, quoi.
Exactement.
Ça facilite. Là, l'aiguille s'affole.
Là, l'aiguille s'affole et je vais m'en servir, je vais mettre le doigt dessus, je vais dire, tu vois, ça va pas. Faut qu'on travaille là-dessus.
C'est un super outil. Enfin, les mecs sont méchants, mais pas bêtes.
Absolument.
Non, niveau propagande, c'est top.
Ah non, c'est... Oui.
Alors moi, j'ai un petit peu bugué sur les extraterrestres, mais en fait, tous ces traumatismes seraient liés aux extraterrestres?
Oui. Ça serait lié à ces tétanes.
Donc t'as un accident de bagnole, les freins ont lâché et t'es tétraplégique, ça c'est à cause des extraterrestres.
Alors non, on va plutôt parler de souvenirs parce qu'en fait il y a aussi une histoire de réincarnation si tu veux, enfin un engramme, des engrammes qui sont peut-être même pas dans ta vie à toi. T'as vraiment des trucs...
T'as pas l'air hyper convaincu.
Je suis un mauvais scientologue.
Je serais pas quelqu'un dans l'équipe l'église de la scientologie.
On parlait de sponsors qu'on en recherchait, l'église de scientologie d'ailleurs.
Ah oui d'ailleurs, ils ont de la maille, allez-y.
Non, eux pour le coup ça ira, on va s'en passer.
Ils ont du pognon, on va en parler. Ils ont aucun problème avec ça. Il y a d'autres tests aussi, par exemple l'Oxford Capacity Analysis, le LOCA test, où en fait on va... C'est un quiz, en fait, un QCM. Tu vas cocher pas mal de petites réponses. Et c'est vachement bien fait parce que tu vas avoir après ça un entretien où on va faire un débriefing de ton NOCA test. Et comme par hasard, ton résultat est pas terrible. Hein. T'as vraiment des soucis.
Tu as besoin de la scientologie.
T'es en dessous de la courbe des 30. Ça va pas du tout. Quoi. On va te montrer une ligne. On va encore te montrer quelque chose de très concret qui va te montrer que tu vas mal, que tu as besoin
parce
d'aide.
Parce que les questions du QCM, c'est censé montrer si jamais tu vas bien ou pas dans ta vie. Et si tu as besoin de la scientologie ou pas, c'est des questions sur ton enfance, est-ce que tu vas bien au travail et tout.
C'est assez global comme test. Je vais pas te mentir, j'ai pas essayé de passer le test pour préparer cette...
Non, il faudrait, moi je suis chaud pour y aller. Hein. S'il y a des mecs à Paris qui font ça, on pourrait faire.
Il y a des
faire.
Mecs à Paris
oui,
qui font ça.
Oui, il y a l'église de scientologie à Paris.
Camille m'en parlait tout à l'heure, un article qui était passé sur mademoiselle.com, si je dis pas de bêtises, une journaliste qui était allée faire ces tests-là et qui avait une expérience très très douloureuse parce que justement ils étaient allés chercher un événement traumatisant et en gros ils lui ont fait raconter en boucle en boucle, en boucle, en boucle. Elle voulait arrêter. Elle disait oui, oui, je comprends. Re-racontez-moi ça. Et en fait, petit à petit, au début, elle pleurait comme une madeleine dès qu'elle racontait cette histoire. Je crois qu'elle avait perdu un enfant in utero ou quelque chose comme ça.
Ah, c'est horrible.
Et à force de re-raconter cette histoire, elle s'est désensibilisée forcément parce que pendant 2 heures, on lui a fait raconter la même histoire. Elle pleurait plus à la fin.
Oui.
Qu'est-ce qu'on en déduit ?
Ah, mais du coup, vous voyez, ça va mieux grâce à la
psychologie. On n'aurait pas effacé un engramme là ?
Oh.
Et non, en fait c'est une mécanique très simple de psychologie qui permet d'effacer un traumatisme en le répétant, en le banalisant.
Ouais.
Le problème c'est que c'est très très forcé, c'est extrêmement violent, et du coup ça, ça permet de prouver plus ou moins que ça marche. En fait pas du tout, c'est du bullshit complet.
Donc là on vient de remplir le QCM,
mm-hmm.
Et là vraiment la machine m'a dit que j'allais mal, j'avais plein d'engrammes, le QCM a confirmé que tout allait mal. Et là, du coup, je me sens encore plus mal, en fait.
Tu te sens encore
là,
plus mal.
Je commence à douter.
Mais,
surtout,
tu vas rentrer chez toi après, parce que tu vas pas passer une semaine dans l'église de Scientologie.
Je rentre chez moi.
Ah bah, tu vas rentrer chez toi, t'es pas
là,
en prison.
Je suis dans la merde.
Je vais pas
en
te retenir.
En allant mal.
En allant mal. En revanche, t'auras pas forcément envie de revenir. Tu dis que je suis quand même allé en église de Scientologie, mais moi, je vais t'envoyer des petits SMS. Je vais t'appeler pour savoir si tu vas bien. Je vais pas te dire reviens nous voir. Je vais juste te demander si ça va.
Mais du coup, je me dis putain, mais ce mec.
Il pense à moi.
Une fois, il y a quelqu'un, contrairement à ma famille et mon travail, c'est un pote en fait.
Absolument.
En fait, t'es mon pote.
C'est ta famille.
Camille, t'avais une question ?
Ah oui, mais là, du coup, elle va paraître totalement inintéressante. Ils te fournissent les CD de Mylène Farmer quand tu pourras te ramener chez toi ou pas ?
Ah oui !
Pour que tu puisses pleurer
tout
en boule.
Tout
est
côté.
Ouais.
Alors, ce qu'on vient de faire là, ça s'appelle une audition.
Ok.
Voilà, c'est un peu le principe de base de la Scientologie, c'est les auditions. C'est-à-dire qu'on va aller faire passer des auditions, on va être audité, on a un auditeur et un audité. Là, dans ce cas, tu étais l'audité, j'étais l'auditeur, j'ai essayé de te dégager tes engrammes.
Ok.
Ok. Tu vas faire ça très souvent si tu rentres dans l'église de Scientologie. Et surtout, on va te proposer assez rapidement, on va te dire, t'as des bons résultats hein, sur tes premiers. Est-ce que tu voudrais pas peut-être faire un petit stage pour toi devenir auditeur ? Pour pouvoir améliorer la vie d'autres gens.
Ah.
Tes scores de tétane sont au maximum.
Eh oui, mais surtout.
Les scores de tétane.
Je sais pas, j'essaye de sortir les termes.
Non, mais c'est bien, t'as bien tenu. Mais déjà, si t'as un petit peu d'ego, tu vas être très content de pouvoir rapidement arriver au stade d'auditeur.
Ouais.
Donc là aussi, il y a un piège.
Ok. Mais alors là, du coup, ça veut dire que moi, j'ai fait les tests et au bout d'un moment, le mec, il m'a mis en confiance. Et il a fait en sorte que je rentre dans l'église de Scientologie, mm-hmm. Et là très rapidement j'en fais partie.
Ah, tu en fais partie, et on te propose comme dans une association finalement de t'investir davantage et de participer activement en fait au recrutement, puisqu'il s'agit de recrutement, ouais, de devenir auditeur.
C'est le BDE quoi.
Ouais. Mais il y a un hic, je pense que vous pouvez le deviner, c'est que ce stage, il est gratuit ou pas ?
Ah bah bien sûr que non.
En même temps faut payer l'électricité, le matos,
et oui.
Il y a des charges. Hein.
C'est normal.
Et oui, parce qu'il y a aussi des cours, en plus de ces auditions, en plus de ces stages, et les cours aussi sont payants. Alors ça commence gentil, hein, ça va être 40 euros le stage ou le cours, en plus nourri, logé, enfin super.
Oui, mais qu'est-ce qu'un petit chèque de 40 euros compte un peu de bonheur ?
Mais c'est comme l'UCPA. Ah.
Alors,
la prostitution.
Oui. J'en parlais avec un collègue qui m'a fait une métaphore assez intéressante. Vous vous rappelez des magazines des éditions Atlas ? Vous aviez un T-Rex à monter, premier
ouais,
numéro, on avait la tête.
Numéro, hein. Le premier coûte 70 centimes, et
exactement.
Après ça coûte la
deuxième numéro coûte 1 euro, le c'est troisième vrai. Coûte 2 euros, et une fois qu'on est dedans, qu'on en a acheté 4, on va pas s'arrêter là.
C'est l'effet de
ce serait trop con.
C'est l'effet de gel.
Et oui, et puis on devrait admettre en plus qu'on s'est trompé. Et ça, c'est mort, parce que plus c'est gros, moins on va admettre qu'on s'est trompé. Donc quand on va rentrer là-dedans et qu'on va se rendre compte finalement petit à petit que merde, je suis quand même dans un truc qui vénère un alien du nom de Xenu, à quel moment on va dire à soi-même et à ses proches qu'on s'est trompé et qu'on a cru à ça?
Surtout si l'aiguille s'agite beaucoup moins quand on passe des tests.
Eh oui.
Parce que ça marche.
Eh oui.
Donc, scientifique.
Il faut savoir que la Scientologie, elle est reconnue comme une religion aux États-Unis. Et en Espagne. En France, on l'a classé comme une secte, par contre, en 95.
C'est quoi la différence entre une religion et une secte ? Moi, je sais jamais, j'ai lu plein d'articles. T'as des points là-dessus ?
Alors, il y a une histoire de pognon.
Oui, pour
y a
la
une
France,
de
il y a du pognon, ça,
ouais.
C'est sûr.
Il y a du pognon, mais pas que. Bah, du coup, j'en parlerai rapidement après sur le sujet suivant.
Ah oui, c'est vrai, putain, j'ai l'impression. Donc, je suis
mais,
pas attentif.
En fait, il y a des lois qui protègent les religions dans différents pays. Et t'as le droit de faire certaines choses si c'est si c'est en accord avec ta religion. Donc t'as le droit de porter certaines choses que tu n'aurais pas le droit de faire, le droit de porter en temps normal, t'as le droit de faire certaines choses, etc.
Genre des chapeaux.
T'as une défiscalisation, oui, genre des chapeaux, t'as une défiscalisation ici, si je dis pas de bêtises, mm-hmm. Et le gros intérêt de la, du fait d'être reconnu comme une religion aux US pour la scientologie, c'est la défiscalisation. C'est un puits à thunes monstrueux.
Du coup, il n'y a pas d'impôts.
Ouais.
Lorsqu'on a nettoyé tous ces engrammes, on atteint l'état de clair. Une personne claire. Et ça a un prix de devenir clair. Plus ou moins calculé, puisqu'on a pas mal de témoignages de personnes qui ont réussi à sortir un petit peu de ce cercle-là. À votre avis, pour devenir clair, on a dépensé combien en stage et autres joyeusetés ?
5 000 ?
Un petit peu plus ?
8 000 ?
On va plutôt être entre 45 000 et 300 000 euros.
Oh,
bâtards.
La vache. Ouais, donc, oh,
il faut être crédule et riche.
Ah, oui, c'est ce que j'allais dire, faut pas être smicard chez Picard, quoi. Du coup, il fait plus. Oh, bon,
je suis smicard chez Picard. Ouais. Mais du coup, tu fais quoi en étant clair ? C'est quoi l'avantage d'être clair ?
Un statut social, une
t'as pas un pouvoir
reconnaissance sociale. Il n'a pas de pouvoir particulier sur les autres, mais après.
Je pense que t'es reconnu après au voilà. sein de l'église de la scientologie. Ah,
c'est comme la carte grand voyageur chez SNCF.
meilleure métaphore.
Les miles, je sais pas comment ils appellent ça. Je crois que c'est ça, les smiles.
Les miles, c'est pour c'est le. Non, points, les smiles, c'est Jean Casino et les miles, c'est l'avion.
Les points fidélité. D'ailleurs, j'ai perdu la carte grand voyageur.
Et donc, après ce statut de clair, tu pourrais te dire c'est bon, je suis clean. Mais non, ça peut aller plus loin. Tu vas avoir différents statuts de operating thetan, etc. Et en fait, ça n'a pas de fin et ça coûte de plus en plus cher.
Parce que moi, j'imagine que les mecs, ils trouvent des moyens de dire ok, là, tu vas bien, mais en fait, tu pourrais aller encore mieux.
Exactement.
Il doit avoir des techniques de... Mais à mon avis, je pense que ces gars-là, ils doivent avoir des notions de psychologie qu'ils utilisent juste à mauvais escient.
En fait, il s'agit vraiment de Hubbard, le type qui a écrit La Dianétique. Il base tout sur ce bouquin-là, qui est une espèce de vulgarisation merdique de la psychologie où en gros, on utilise des principes de psychologie, mais de manière extrêmement violente, et ce qui fait que ça procure ces effets-là. Et donc, ça n'a pas de fin, en gros. Sauf si, bah, par chance, on arrive à s'en sortir, ce qui est, comme on l'a expliqué avant, qui est vraiment pas facile. Et généralement, les gens qui en sont sortis ont tendance à le raconter. On peut trouver des tonnes et des tonnes et des tonnes de témoignages de gens qui en sont sortis. Donc tout ça pour dire que la scientologie, bah, c'est un peu des connards quand même. Hein.
Il n'y a pas Travolta aussi qui est rentré dans la liste de scientologie ?
Oui, bon, il y en a un bon paquet. Enfin, toujours est-il que on se rend compte que c'est bien chelou la scientologie, mais que c'est pas forcément la plus chelou. N'est-ce pas, Elias ?
Bah moi, je vais continuer en fait sur les religions, croyances, sectes un peu bizarres, un peu chelous.
Alors, toujours fâché avec le bon Dieu ?
Non, sire, pour une fois, c'est pas moi. J'étais là, je priais.
Et oui, alléluia. Bah du coup, tu en parlais tout à l'heure, Karim. Quelle différence on peut trouver en fait entre une religion et une secte ? Alors, faut savoir, on en a discuté justement tout à l'heure avec Camille, qui a plusieurs définitions qui se sont succédées suite au cours des années. On peut déjà, bah, si on regarde au Larousse, en fait, la définition d'une religion, ça va être en fait un ensemble de croyances et de pratiques qui régissent les comportements de ses adeptes ou croyants vis-à-vis d'eux-mêmes ou de la société. Alors, quand on dit croyance.
Comme le PSG, quoi.
Mais oui.
Comme une équipe de foot.
Mais oui, parce que, en plus, point intéressant, une religion n'est pas forcément théiste, donc il n'y a pas forcément de dieu. Ça peut être comme une énorme philosophie.
Zinedine.
Mais Zinedine. Donc si.
Le bouddhisme, par exemple, Bouddha n'est pas un dieu, je crois. C'est un prophète ?
J'aimerais pouvoir te dire oui ou non.
Il n'y avait pas une histoire de réincarnation avec Bouddha ?
Je sais pas, mais je suis pas sûre qu'il y ait de Dieu au final dans le bouddhisme aussi.
C'est une bonne question.
Je suis assez d'accord avec toi, mais je n'ai aucune certitude.
En tout cas, il ne faut pas manger les vaches.
Oui, ça c'est vrai. Alors, c'est pas l'hindouisme,
c'est
ça
l'hindouisme,
oui, c'est l'hindouisme. Alors, s'il y a des auditeurs parmi nous qui sont bouddhistes ou hindouistes, merci de nous répondre. Bouddha est-il un dieu ? Voilà.
Bah on leur demandera. Bon, en tout cas, si on parle de croyances, les croyances, ça va être par exemple, bon, bah, y a un mec qui peut se transformer l'eau en pinard, ou la terre repose sur 4 éléphants, qui repose sur une tortue, qui repose sur un serpent.
C'est ma préférée.
C'est qui ça ? C'est quoi ce truc ?
Ça, c'est l'hindouisme.
C'est l'hindouisme. Ouais.
Ouais, oui, c'est okay. L'hindouisme.
Et du coup, on pourra demander à Thomas Pesquet, qui est rentré hier d'ailleurs, s'il a vu.
Est-ce que t'as vu les éléphants ?
4 éléphants, puis une tortue, puis un serpent. C'est possible. Après, donc, il y a les comportements vis-à-vis de soi-même. Par exemple, ne mange pas de porc, ne bois pas d'alcool, ne mange que le soir pendant un mois par an, mets un chapeau rigolo.
On est dans le sujet.
Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et vis-à-vis de la société, sois bon envers ton prochain, fais de la charité, pas de sexe avant le mariage. Vous voyez le genre. Voilà. Après, pour les sectes, donc il va y avoir une notion de, une des définitions, en fait, c'est un courant mineur qui est issu d'une religion. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des religions qu'on considère comme majeures aujourd'hui, qui étaient considérées comme des sectes dans le passé. Donc par exemple, le christianisme était considéré comme une secte du judaïsme à l'époque. Mm-hmm. Et au fur et à mesure du, bah, qu'il a pris de l'ampleur, qu'il a eu des adeptes. Pour les sectes, effectivement, il y a aussi une notion de groupe de personnes qui vont partager la même idéologie, donc philosophie, religion, etc. Mais il va y avoir une idée de renfermement sur soi, donc de groupe assez fermé, un peu occulte. Et ben voilà, donc ce qu'on voit, c'est que ce qui peut différencier une secte d'une religion, ça va être aussi sa popularité, mine de rien, même s'il y a d'autres aspects financiers, un peu occultisme, etc. Et donc c'est intéressant, moi, je vais vous parler de certains cultes, croyances, sectes, etc.
Est-ce qu'on va parler de Justin Bieber ?
Non, pas encore.
I'm a believer.
Mais donc des mouvements qui pourront devenir les religions de demain. On va commencer par le culte du cargo. Donc alors déjà
culte,
pour...
Culte du cargo ?
Ouais.
On parle cargo. Bien des cargos.
Ouais, ouais, des cargos. Alors,
genre les pantalons.
Cargo. Et ça, c'est pour les mecs, ça, c'est pour les mecs qui sont accros à vendre privé, quoi.
Mais alors, putain, quoi.
Hicham, si tu nous écoutes.
Alors déjà, petit avant-propos, en fait, j'ai sélectionné un petit peu les cultes, sectes, religions, etc. Il y en a qui sont assez badantes, les suprémacistes noirs, les suprémacistes blancs, etc. Donc j'ai essayé de garder des trucs un petit peu rigolos.
Le KKK.
Par exemple.
C'est pas une religion, le KKK.
C'est une secte.
Oui.
Ça peut être considéré comme
c'est
comme
pas
tel.
Un club.
Et il y a surtout un gros...
C'est un clan.
Le Rotary.
Oui.
Ok, les Illuminati.
Du coup, on va partir donc sur le culte du cargo. Bah, déjà, est-ce que ça parle à certains de vous, mis à part les pantalons à la
non,
mode?
Non, non, moi ça me dit rien.
Ça me fait penser à une chanson cargo de nuit.
Non, c'est pas ça.
Non, ça me dit rien.
Bah, en fait, ça a paru vers la fin du 19e siècle sur les îles océaniques. En fait, ces îles ont été explorées par pas mal de pays, de nations différentes. Et ils ont vu les personnes qui sont venues sur ces îles, qui sont venues découvrir et installer des avant-postes. Ils ont vu qu'ils recevaient régulièrement du ravitaillement. Et ils comprenaient pas pourquoi. Ils se sont dit, putain, ils reçoivent des richesses, des vivres, etc. Et du coup, les aborigènes se sont mis à imiter les occidentaux, à imiter les personnes qui travaillaient là-bas, les militaires, etc. Et à vivre comme eux, donc à s'habiller comme eux, à parler comme eux, à prendre des pratiques qu'ils n'avaient pas avant, donc par exemple couper des fleurs pour les mettre dans un vase, ce qu'ils n'auraient jamais fait avant. Mm-hmm. Mais parce qu'ils pensaient que ça leur donnerait les mêmes choses qu'eux. Donc que... Mais oui, parce que ils voyaient pas.
Mais c'est trop marrant.
Mais parce que ils voyaient pas les occidentaux travailler le fer, coudre les vêtements, etc. Ils voyaient les vêtements et les objets technologiques arriver.
Arriver, ouais. Non, ça fait sens pour le coup.
Ils pensaient que ça venait de.
Mais oui.
D'un dieu du cargo.
Mais oui, une faveur divine. Donc ils sont mis
pour
à
le
faire
coup,
pareil.
C'est vraiment du miracle. Enfin, tu le vois de tes yeux vus, quoi. Tu vois des caisses qui arrivent avec des trucs dedans.
C'est génial. Coup, ils ont pas posé la question, mec.
Ah, mais tu peux pas leur en vouloir. Et du coup, en fait, c'est intéressant parce que ce culte du cargo, ça a été repris dans pas mal de... Ça a été, un espèce de mécanisme psychologique et sociologique où c'est le fait de réutiliser une pratique en espérant avoir les mêmes retombées, voilà, les mêmes résultats sans rien changer. Donc là, c'est exactement ça. Ils se sont habillés pareil, ils ont fait pareil, ils se sont dit, on va peut-être avoir des ravitaillements.
Bon. Sans comprendre le pourquoi du comment.
Exactement. Mais ça ne marche pas comme ça.
C'est énorme comme truc, ça. Mmh. Ça date de quand ?
Fin du 19e. Et en fait, c'est resté, ça a eu une grosse longévité dans certaines îles, donc de îles océaniques. Et du coup, on va pouvoir enchaîner sur le culte de John Frum.
L'Océanie, c'est l'Australie, on est d'accord ?
Ouais. Ah bah justement.
Pour ceux qui, comme moi, suivent pas.
Justement, pour le culte de John Frum, sur l'île de Tana, à l'est de l'Australie, on vénère un dieu qui s'appelle Kerapanenum. Bah, c'est un peu compliqué à dire.
C'était marqué sur une caisse qui arrivait sur la plage.
Non, alors, on va partir un peu dans des délires. Mais en 1939, il y a un indigène qui se fait passer pour ce dieu et qui prédit la guerre du Pacifique. Bon, ça peut arriver, il peut avoir une bonne idée. Le fait est qu'en 1941, sa prophétie se réalise et tout le monde se met à l'adorer. Alors, les croyants plantent des croix en bois qu'ils peignent en rouge. En fait, c'était simplement les croix des médecins militaires américains qui arrivaient sur l'île.
Ouais.
Et ils affichent dans leur maison des photos de bateaux et de yachts. Et c'est simplement aussi parce que John Frum serait arrivé en bateau. C'est un peu incohérent parce qu'il est censé venir de l'île. Bon, c'est un peu bizarre. Et on suppose que le nom de John Frum vient des Américains lorsqu'il se présentait. Hi, I'm John from America. John Frum.
Voilà.
Excellent.
Oh la vache.
Il y a un dérivé qui est assez connu de ce culte-là. C'est le culte du prince Philippe. Prince Philippe, vous devez connaître.
Absolument pas.
Nope. J'allais dire, c'est pas un piercing à un endroit, mais non, c'est pas.
Non, c'est le prince Albert. Oui, mais bien sûr, c'est grâce à un piercing à la tub, c'est exactement ça. Non, le prince Philippe, mais d'Angleterre. Et en fait, on dit que John Frome aurait quitté l'île de Tanna par bateau pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il aurait rejoint l'Angleterre. Et grâce à ses pouvoirs magiques, il aurait réussi à triompher d'une série d'épreuves et il serait devenu le prince consort d'Angleterre. Et ouais, rien que ça. Et donc plus sérieusement, on considère que ce culte naît suite à la visite d'Elisabeth et Philippe, où ce dernier serait arrivé vêtu de blanc, tel un messie. Donc il a été adoré parce qu'il est arrivé comme un messie par la mer, etc. On va continuer sur un petit culte de la personnalité, alors celui-là vous pouvez le deviner.
Pizzerti.
Non, c'est le culte des Maradoniens.
Maradona. Maradona.
Oui.
Je suis allé à Naples.
Qu'est-ce qu'on est fort.
C'est badass à Naples, c'est-à-dire que dans certaines petites rues pas touristiques vraiment où les gens vivent, il y a une statue de la Vierge et à côté une photo de Maradona avec des bougies quoi. C'est à Naples, c'est complètement mais badass, c'est des ouf les Napolitains.
Ah non mais c'est monstrueux. Donc ça a été fondé en 1998 par deux Argentins pour les 38 ans de Diego Maradona.
Non mais comme quoi avec Zidane, j'étais pas complètement con.
Mais ouais, et bah ouais. À votre avis, il y a combien d'adeptes dans le monde?
Franchement, je non, pense alors, qu'il y en a beaucoup.
C'est quoi le concept? Tu peux nous expliquer quel concept?
Tu adores Diego Maradona.
Ouais. Mais à quel point? Parce que
tu pries pour lui, tu vas mettre des cierges dans les églises,
des églises
pour lui et tout.
Il y a des églises où t'as Diego Maradona et quand le mec il fait sa prière et tout, c'est pour Diego.
Non, non, mais je t'assure, alors je sais qu'en Amérique latine ça doit être encore plus fort que ça, mais à Naples, parce qu'il a dû jouer pour Naples le mec.
Je ne saurais pas dire.
Il me semble qu'il a joué pour l'équipe de Naples pendant longtemps et à Naples, c'est badass. Tu visites des églises, c'est
flippant. Pour les gens qui n'aiment vraiment pas le sport, on peut faire une microbiographie de Maradona.
Alors, je vais venir.
C'est un mec qui a pris de la coke et qui a marqué les buts.
Bon, c'est un mec qui jouait dans l'équipe d'Argentine, mais je vais venir après.
Qui a traficoté aussi.
Sur ce qui l'a rendu célèbre. Enfin, entre autres, ce qui l'a rendu célèbre.
Alors, combien?
Mais je reviens, mais voilà. Merci pour le retour.
Je sais pas, moi.
La question. À 5000 près.
Max.
À 5000 près.
Mais 5000 près, moi j'allais dire 10 000 max.
Ah, tu peux augmenter.
Ouais, on doit être dans
40 000.
Les mecs qui brûlent des cierges dans les églises.
Entre 80 000 et 100 000 adeptes dans le monde. C'est monstrueux.
Ah ouais, ça fait la taille de la ville de Besançon.
Ça fait beaucoup de crétins quand même.
Et donc il y a deux fêtes principales chez les Maradoniens. Donc le Noël, enfin la Noël maradonienne, puisqu'on dit la Noël apparemment. Le 29 octobre pour l'anniversaire de Diego.
Voilà.
Normal. Et les Pâques maradoniennes, donc c'est là qu'on vient à un des faits d'armes de Diego Maradona. Et donc les Pâques maradoniennes, c'est le 22 juin en l'honneur du match Argentine vs Angleterre.
Et il y a pas longtemps.
C'est Pâques avec de la coke dedans.
Non. Est-ce que vous savez ce qui s'était passé à ce match?
Il a mis un but avec sa main.
Exactement, la mano de Dios. En fait, pendant un match officiel international, il a marqué un but avec la main où ça a été filmé, avéré, etc. Et l'arbitre l'a accepté. Et ça a donné une putain de religion avec 80 000 adeptes.
Non, mais c'est un truc pas bien qu'il a fait. Il a triché.
Alors, on va continuer sur un truc qui n'est pas tout à fait un culte de la personnalité, mais vous verrez, c'est quand même assez rigolo. C'est le temple de Om Bana. Donc c'est en Inde, si je ne dis pas de bêtises, et c'est un temple qui est dédié à Om Singh Rathore. Alors ça va être galère à prononcer, mais je vais faire de mon mieux.
C'est aspirateur.
Et oui, mais c'est ça. Non, pas du tout. Et en fait, il était surnommé Baba Belette. C'est une personne qui s'appelait comme ça.
Ah, c'est Cyril Hanouna.
Non. Mais Baba Belette. Et en fait, ce surnom, c'est d'après sa moto, qui était une Royal Enfield Belette 350cc. Si vous voulez tout savoir, c'est la référence. Elle fonctionne bien. Mais ce pauvre homme de bonne famille, en fait, il a eu un accident de moto sur la N65 en 1988.
Donc, il est mort.
Ouais, il est mort. Et malheureusement, voilà, il y a un arbre qui avait traversé la route sans le prévenir et il s'est bouffé l'arbre. Mais littéralement, il s'est mangé un arbre. L'arbre n'avait pas traversé, mais bon, vous l'aviez compris. Et en fait, après l'accident, la police a saisi la moto. Elle l'a saisi comme preuve, donc elle l'a amenée au commissariat, normal. Le lendemain, on a retrouvé la moto sur le lieu de l'accident. Bizarre. Donc la police a récupéré la moto, elle l'a remise au commissariat, sous clé, cadenas, etc.
Elle l'a menottée cette fois-ci.
Mais bien sûr, parce que ça devenait un suspect, c'est normal. Et on a encore retrouvé le surlendemain la moto sur le lieu de l'accident. Et là, les gens ont dit, oh putain, c'est magique, cette moto est ouf, on fait un temple, on met la moto dedans et on l'adore. Donc il y a un temple, littéralement, qui existe avec une putain de moto dedans. Et les gens
qu'est-ce
viennent.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Oui, c'est vrai. Alors, je vous jure, il y a no bullshit dans tout ce sujet. Et donc, on a construit un temple, on y a placé la moto. Et les gens viennent prier pour un. Les gens viennent prier pour un voyage en sécurité, loin des méfaits de l'alcool.
Quoi?
Oui.
Et c'est le culte de Sam.
Alors, on va continuer sur l'euthanasisme. Même si ça paraît bizarre, moi, ça me fait rire.
L'euthanasisme.
Oui, ça a été fondé en 1992 et selon ses croyants, en fait, l'homme a un effet bien trop négatif sur la Terre et il faut donc réduire la population. Donc
il ne peut pas être beaucoup de membres.
Mais si, en fait, il y a un seul commandement qui est tu ne procréeras point. Donc le but c'est de ne pas faire augmenter la population de la Terre. Il y a un commandement mais quatre piliers. Donc le suicide. Voilà, désolé.
Sympa.
L'anthropophagie, pardon. Donc
tu te manges.
Non. Tu manges des gens morts, mais c'est en fait leur logique, c'est quitte à manger quelque chose, autant manger une personne qui est morte sans la tuer, mais autant la manger plutôt que de manger un animal, parce que tu vas pas tuer un animal juste pour manger, c'est mal.
D'accord.
Oui,
donc,
le troisième pilier, c'est l'avortement, et le quatrième, à votre avis, pour ne pas faire augmenter la population, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?
La vasectomie.
Ouais. J'allais dire.
L'homosexuel.
On s'approche.
On se crève les yeux. J'ai dit au pif.
L'abstinence.
Non, plus rigolo. On n'est pas des bêtes quand même, faut vivre.
La masturbation.
Non, mais c'est plus social.
La
sodomie. Ah, et ouais.
C'est plus social.
plus que la masturbation. Et donc la sodomie est un des quatre piliers de l'euthanasisme. Et il y a eu aux États-Unis des manifestations d'euthanasistes où il y avait des gens qui avaient des pancartes avec des choses marquées dessus comme Save the Planet, Kill Yourself. On va partir du coup sur quelque chose de plus léger, que j'aime beaucoup parce qu'il est très sympathique.
Mais là, sur la sodomie, on ne pourra pas faire vraiment plus léger.
Si tu verras. On va parler de l'église patholique. Patholique. Ah, pastafariste, pardon, ça va venir après, mais patholique.
Cool. Patholique.
Est-ce que vous voyez ce que c'est ?
Le pathos ?
Pato, ça veut dire canard en fait.
Bah oui.
Donc c'est le culte du canard en plastique jaune.
Non.
Et ouais, ça a été fondé. Ça a été fondé par un Espagnol du nom de Léo Bassi. Il y a même un Vatican. Et ouais.
Un Vatican.
Comme le Vatican.
Ouais.
Est-ce qu'on dit in nomine Pato?
Oh. Peut-être. Donc il y a un journaliste qui a fait un reportage dessus il y a quelques années et qui disait que les murs du Vatican sont recouverts de portraits de Descartes, Sénèque, Édith Piaf, Einstein, Groucho Marx et d'anges avec des nez de clown. Relativement bonne ambiance.
Je suis très fier de vous, personne n'a fait de blague avec Édith Piaf.
Ouais, Piaf,
oh,
canard. Oh, excellent. Donc on se dit, voilà, quel serait le commandement du culte du canard en plastique jaune? Et quand on demande à Léo Bassi...
Plus il y a de la mousse dans le bain, plus c'est bien.
Et ben non, quand on demande à Léo Bassi, il répond, comment un canard en plastique pourra-t-il parler? Et en fait, pourquoi il a créé ce commandement? C'est parce qu'en Espagne, on sait que le pays est vraiment baigné dans le catholicisme à outrance, et il a voulu un peu contredire ça et sortir un mouvement parodique. Après, il a des idées assez intéressantes. Il souhaite donner des cours sur l'homosexualité. Alors, c'est pas en mode tuto pour que les gens deviennent homo, ça n'a rien à voir. En fait, c'est pour informer les enfants et balayer les préjugés, donc les sensibiliser à ça. Donc, c'est vachement intéressant.
C'est un mec cool, en fait.
Il a aussi fait des mariages un peu bizarres. Par exemple, une femme avec une chienne. Et en fait, ça, c'est un culte qui se rapproche beaucoup de d'autres délires un peu absurdes, comme la licorne rose invisible, dont le principe réside en fait qu'elle est à la fois rose et invisible.
Et du coup...
C'est très fort.
Vu qu'elle est invisible, c'est comme le canard qui peut pas parler.
Et ouais.
Malin.
Et la Sainte Église du Bacon qui tend à prouver que le bacon existe bel et bien.
Il a les yeux qui ont brillé, Karim.
Oui. Ils se battent pour ça. On va partir sur. Là, on va commencer à aller vers les mouvements qui sont un peu plus sérieux, où il y a plus de personnes et qui sont plus acceptés dans la société. Ça va paraître bizarre, mais il y a un mouvement, enfin, une religion même, vraiment une religion littéralement, qui s'appelle le copimisme.
Le copimisme.
Ouais. Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Copimisme, un truc de photocopieur.
Ah, c'est pas, ça, ça rapproche. T'as compris le principe. Copy me. Alors en fait, c'est un mouvement qui prône le partage d'informations et donc la copie de fichiers.
Ah ouais, c'est une bonne excuse pour pirater des films, quoi.
Et ouais, mais pourquoi? Parce qu'on parlait des religions tout à l'heure, différence entre une religion. Pourquoi c'est important d'être reconnu comme religion?
Des fiscalisations.
Et pas que, c'est-à-dire que t'as le droit de faire des actes si c'est en accord avec ta religion. Et le copimisme est reconnu comme une organisation religieuse en Suède, officiellement pour de vrai. Tu peux être copimiste.
Mais ils sont quand même emmerdés parce que sinon, typiquement, les mecs de Pirate Bay, ils seraient allés à l'église de copimisme et voilà, tranquille.
Bah, je pense qu'un des intérêts, c'est que ça soit un petit peu sous le radar aussi.
Mm-hmm.
Mais donc, l'intérêt de ça, pourquoi en Suède, c'est que. Du coup, ça permet aux gens d'effectuer des actes, on va dire, informatiques, tout en revendiquant leur religion, et donc de dire, tiens, j'ai copié ce fichier, mais c'est en accord avec ma religion. Il y a quelque chose, alors là, on va partir sur les cultes qu'on connaît plus, parce qu'ils ont été beaucoup plus médiatisés, le jediisme.
Ah, jediisme. Oh, oui. Star Wars, R2-D2.
Oui, magnifique. Est-ce que vous savez quand ça a été créé?
Après Star Wars.
Ouais, potentiellement.
Jusque-là, ouais. Là, on est bon.
Et je suis, hein.
Dans les années 80, 90 ?
Non, beaucoup plus tard. Ça a été créé en 2001.
Après la menace fantôme ou avant ?
Donc c'est une religion non théiste, donc il n'y a pas de dieu qu'on va adorer, etc.
Le Walker.
Le principe de la, du jedéisme, en fait, c'est de croire en la force, d'adorer la force, et surtout de suivre les enseignements du code Jedi, donc comme dans le film en fait, et c'est globalement un peu basé sur des principes de philosophie inspirés du taoïsme, du bouddhisme et d'autres écrits qui sont liés à ça, donc pas de possession matérielle, pas d'attachement émotionnel, etc. En fait, c'est parti d'un espèce de délire. Il y a une vague d'emails dans les pays anglophones qui demandaient aux gens d'indiquer Jedi ou Jedi Knight, avec un K magnifiquement prononcé, dans le champ religion lorsqu'ils remplissaient des formulaires. En fait, le but, c'est de faire reconnaître le jedaïsme comme religion et aussi un petit peu de s'amuser et de faire un peu chier le gouvernement. Donc, en 2001, on comptait environ 390 000 Jedi au Royaume-Uni, donc Angleterre, Pays de Galles, etc. 390 000, c'est monstrueux.
Ouais, c'est beaucoup.
En fait, c'était la quatrième religion la plus répandue au Royaume-Uni, après le christianisme, l'islam et l'hindouisme. Donc 0,7%, ça paraît pas énorme.
Il y avait plus de Jedi que de bouddhistes.
Plus, ouais.
Putain,
c'est absolument magnifique. Là, on
Ils sont bien joués, Chewbacca.
On va attaquer les deux derniers, et je vous avoue, c'est mes deux chouchous. C'est un peu les plus connus et les plus développés. Le pastafarisme.
Oui.
Ça vous parle?
Ah oui.
Ah, est-ce que vous sauriez me dire?
Moi non.
C'est le monstre, spaghetti géant. Je vous avez jamais vu cette image de la création où on remplace Dieu par deux boulettes de viande et des spaghettis?
Ouais. Pas du tout.
Bah, c'est une représentation du grand dieu pastafarien. Je sais plus d'où ça vient à la base. Ça doit être un truc d'un forum ou un truc comme ça, non?
Même pas. En fait, c'est l'église du monstre spaghetti géant. Mm-hmm. Ça a été créé en 2005 par Bobby Anderson, qui était un étudiant américain en psychologie, si je dis pas de bêtises. En fait, il était horrifié de voir que le comité d'éducation du Kansas a autorisé l'enseignement des cours dans les cours de sciences du dessin intelligent. En fait, le dessin intelligent, c'est un dérivé du créationnisme qui prend de fausses bases scientifiques. Pour lui donner un peu de valeur. Donc il a décidé d'écrire une lettre ouverte pour demander au comité de considérer son culte et de lui faire une place au même titre que les autres.
Plutôt malin comme type.
Et ouais, et je le cite dans sa lettre, il a dit: je pense que nous pouvons nous réjouir à l'idée qu'un jour ces trois théories aient une part de temps égale dans les cours de sciences de notre pays, mais aussi du monde entier. Sur les quatre membres du comité, trois ont répondu positivement et un négativement. Et il a dit: c'est une offense grave de railler Dieu. On est quand même passé pas loin d'avoir des cours de spaghetti géant dans les cours de sciences aux US. Enfin, au Kansas, tout du moins.
Mais là, il doit y avoir vraiment beaucoup d'adeptes dans celle-là. Parce que j'ai vu assez récemment qu'il y avait des processions en Espagne, carrément, comme pour les fêtes de Pâques et tout ça. Une procession avec, comme tu sais, les chars pour le carnaval. T'avais un monstre spaghetti géant sur un char. Non. Et qui était poussé, ouais. Je pense pas qu'il y avait trop de monde, mais...
Mais là, on est sur la Rolls-Royce des religions. Enfin, parmi tout ce que j'ai cité, et comme je vous disais, j'en ai occulté plusieurs, parmi tout ce qu'on a cité, c'est celle qui mérite plus le titre de religion. Vous verrez pourquoi sur la fin, mais c'est impressionnant le développement de cette religion. Alors, parmi les dans la croyance, c'est quoi l'histoire du pastafarisme? Parce que c'est pas juste un délire, il a quand même créé toute une histoire. Donc, leur Bible, en fait, c'est un monstre en spaghetti volant invisible qui a créé l'univers...
Comme d'hab.
Après avoir beaucoup bu, très important, en fait, c'est l'ivresse du monstre qui est la raison pour laquelle la Terre n'est pas parfaite. Et ouais, ça déconne pas. Et là, du coup, on a une religion théiste, et avec un dieu, et un paradis, et un enfer. Et dans le paradis pastafarien, on trouve des usines high-tech, donc il y a des iPhones et compagnie, c'est quand même assez cool, des volcans de bière, on va pas cracher dessus, et une usine de stripteaseurs et de stripteaseuses. Ouais.
Génial.
Ouais.
Donc il y a le donjon de Nalbach.
Ouais. Et il y a l'enfer. Et alors, l'enfer, c'est assez similaire. Le mec, c'est pas fait chier. Bon, sauf que la bière est éventée et que les gogo dancers ont des MST.
Oh non.
C'est quand même un peu la loose.
C'est génial.
Alors, il y a quelques fêtes pastafariennes. Il y en a plusieurs, mais j'en ai retenu une parce qu'elle est d'actualité. C'est le ramen dan.
Non.
Oui, vraiment, j'ai que des ramen.
Et oui, c'est exactement ça.
Pendant le ramadan,
c'est similaire au ramadan musulman, sauf qu'au lieu de jeûner, les pastafariens ne mangent que des pâtes instantanées type ramen en souvenir de leur année étudiante.
Oh.
Et ouais. Il y a vraiment des types qui le font, j'imagine. Ils se prennent en photo.
Mais j'imagine, mais c'est vraiment un gros mouvement.
Bah écoute, c'est en ce moment là?
Oui.
Mais j'irai taper hashtag ramendan sur Twitter pour voir à quel point c'est.
Je suis vraiment curieux de voir ça, mais vous allez voir, c'est un mouvement qui a fait du chemin. On va justement y venir tout de suite. Le pastafarisme, parce que bon, il y a plusieurs noms, on va prendre le pastafarisme, qui est un mélange, comme vous l'aurez compris, de pasta pour les pâtes et de rastafarisme pour les rastafariens. Ça a été reconnu comme religion officielle en Pologne en 2014. Religion officielle. Bon, pendant 6 mois uniquement, ok. Mais là, on va commencer à monter en puissance. Je vais pas vous faire toute la liste, mais il y a toute une liste de personnes en fait qui ont été. Autorisés à porter une passoire sur leur tête sur leur photo de permis de conduire. Et ouais, photo de permis de conduire parce que c'était en accord avec leur religion.
C'est génial.
Comme le voile, comme la croix, comme la kippa.
Je me dois de te dire qu'en effet, sur Twitter, on a une photo de Donald Trump en train de manger un ramen avec marqué Joyeux Ramendan à tout le monde. Et il y a énormément de gens qui fêtent le ramendan.
C'est bon.
Le ramendan a commencé. Très bon ramendan à tous.
Génial.
Avatar pour le ramendan. Enfin voilà.
Mais moi je suis chaud de faire le ramendan.
Non mais c'est génial. Mais cette religion a fait du chemin. Vous
moi
allez
j'ai
voir.
Déjà commencé en tout cas.
Donc maintenant ça se développe vachement et ils sont à la cool. Ils ont des règles. Parce que quand même c'est pas le bordel. Il faut quand même suivre quelques règles.
On fait pas n'importe quoi.
Il y a 6 grandes règles et je vais essayer de vous faire deviner la 5e. Vous verrez, elle est assez simple.
Va vous étonner. Topito.
C'est ça. Donc ne soyez pas une ordure. Bah il faut que c'est quand même une religion à la cool. Mettez du parfum. Voilà.
C'est gentil.
Prenez une douche. Bon bah sinon c'est dégueulasse hein.
Oui.
Ne soyez pas fâché mais plus spaghetti. Mais en fait ça vient d'un petit jeu de mots en anglais. Don't be upsetty, be more spaghetti.
Ok.
Voilà. Et mangez des pâtes. Et
tu peux pas nous le faire deviner la 5e parce que moi,
non la 6e.
Ah.
Il y en avait 6. Et donc je vais vous sortir une petite citation de Bobby Anderson qui dit: on peut être juif et pastafarien, chrétien et pastafarien, musulman et pastafarien, du moment qu'on respecte la règle de
la fourchette à droite.
Non, pas mal, non, c'est... c'est un truc avec les pattes, c'est un rapport avec les pattes du coup.
Non, c'est
avec le cul.
C'est une philosophie de vie. Non, c'est plus il y a cul dedans, mais c'est une philosophie de vie. Je vous refais la phrase. On peut être juif et pastafarien, chrétien et putain, je l'ai dit deux fois même. On peut être juif et pastafarien, chrétien et pastafarien, musulman et pastafarien, du moment qu'on respecte la règle de ne pas être un enculé. Mais c'est vrai, du coup, ça m'a vachement donné envie de me convertir. Mais du coup, on parle de conversion. Je vais vous parler du judaïsme.
Ah, ça, je connais bien.
Putain, ce tout dernier. Lebowski.
Mais ouais. Oui,
vraiment
exactement.
Le judaïsme. Excellent.
Le judaïsme. Et j'ai une petite surprise pour vous.
Il y a énormément de livres sur le judaïsme.
Et ouais. Et ça a été créé en 2005 par Olivier Benjamin, un journaliste américain. Qui en fait était lassé de parler religion, il trouvait pas la sienne, il trouvait pas ce qui lui correspondait. Et donc il a fondé sa propre religion. Soit le mec il est bien l'américaine, je crée mon truc. Et donc il fonde The Church of the Latter Day Dude. Donc si je traduis salement, c'est l'église du mec des derniers jours. Ça passe. Il s'est auto-proclamé Dudley Lama. Et donc c'est une religion qui est en hommage au dude dans le film The Big Lebowski. Mm-hmm. Donc il me semble que Juan connaît bien le film, t'avais fait un sujet
absolument,
dessus.
Absolument, j'avais fait une émission dessus.
Il ouais.
Faut savoir que d'ailleurs le personnage, c'est marrant, ils ont créé une religion qui est basée sur un personnage qui lui-même est inspiré d'un ami des deux réels qu'ils avaient rencontré à une soirée et qui avait dit: ah, vous avez vu, on tapis les cool, c'est tout. ça se passe vraiment là-dessus. Donc c'est vraiment une religion qui est basée sur que dalle. En revanche, c'est vrai qu'il y a énormément de livres. C'est une religion qui est très très développée, mine de rien.
Oui, ne critique pas cette religion. En fait, le judaïsme, le principe, c'est d'être à la cool, d'être gentil avec les gens autour de vous. Et là, je dis pas de bêtises. Là, c'est pas bon. C'est un peu mes mots, mais c'est vraiment le principe de cette putain de religion, c'est d'être à la cool, d'être ouvert, d'être détendu et d'être relax, etc.
D'être au chômage.
Voilà, les vœux judaïstes, c'est être relax, à la cool avec tout le monde et de garder un esprit souple. Littéralement en citant son créateur. Pour devenir judaïste, honnêtement, c'est pas la galère comme dans la sociologie. Il suffit de remplir un formulaire sur internet en renseignant son nom, son adresse email et de faire vœu de suivre les principes du judaïsme. Et en plus, mais c'est vachement cool parce qu'en devenant judaïste, on devient automatiquement prêtre du judaïsme. Et le mec est tellement cool que tu peux t'appeler comme tu veux. Tu peux être ministre, tu peux être prêtre, tu peux être n'importe quoi. Tu l'es et tu t'appelles comme tu veux. Y'a pas de problème. D'après le site, il y aura à ce jour plus de 350 000 prêtres du judaïsme. Donc putain de merde, ça décolle clairement pas.
Moi je vais m'inscrire à ce truc là, c'est génial.
Et en plus, c'est comme on dit, une religion à la cool parce que tu peux être musulman et judaïste, juif et judaïste, chrétien judaïste, y'a pas de problème. Et j'ai une petite surprise pour vous puisque Pardon Maman est devenu officiellement prêtre du judaïsme.
Oh, oh non.
Il tient vraiment un diplôme dans sa main.
Certificate of ordination.
On a un certificat. Nous sommes prêtres du judaïsme. Nous sommes à la cool. Nous vous aimons. Nous aimons les gens. L'alcool aussi. Le russe blanc.
En prenant un pas de recul, tu nous as inscrit à une religion. Là.
Est-ce qu'on va devoir porter des tongs et un peignoir en permanence?
Bah, potentiellement.
Non, parce que le dudéisme, c'est juste d'être cool. Donc si t'es cool dans tes cool, escarpins, frère. C'est cool pour nous.
Oh. Ma foi.
Et ce sera la fin de mon laïus bah, sur
écoute,
les religions.
Dit, Walter dans The Big Lebowski.
Shut the fuck up, Donnie.
Oh. Ça va, c'était cool.
Absolument.
Ah oui. Merci beaucoup.
Merci, Ilias, pour ce sujet de grand intérêt.
Mais merci à vous.
On jaille.
Ben, j'espère que vous avez passé un bon épisode.
Oh, c'est à la fin, là.
Ouais.
Ben oui. Pour notre part, dans tous les cas, on se retrouve dans 2 semaines avec des sujets magnifiques. Vous savez qu'on est aussi sur PodCloud, Facebook, Twitter. Facebook, c'est Pardon Maman Podcast. Twitter, c'est @PardonMamanPod. On est aussi, effectivement, comme disait Juan, sur iTunes. Et on compte sur vous pour avoir des étoiles, des commentaires, des avis. De même que sur Facebook et Twitter, PodCloud. Lancez des avis, des commentaires, on répond. Ça nous fait plaisir. On est très content de vous faire partager nos magnifiques recherches.
Promis, on lira, on répondra.
Ouais, non mais pour de vrai, ça nous fait vraiment plaisir. Certains l'ont déjà fait et c'était un bonheur. Et en plus le fait de mine de rien de partager, ça nous permet de faire partager ce qu'on fait. Donc c'est toujours un plaisir. Si vous avez des sujets à proposer, on est ultra chaud. S'ils sont ultra absurdes, on est ultra ultra chaud. Ça fait ultra chaud 2 fois. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un magnifique sujet.
Bah,
allez, salut, ciao.
Vous êtes vraiment quelqu'un de bien.
Cher.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.